Chapitre 9. La littérature d'horreur. 1. Peut-être me serait-il possible de brosser un panorama complet de la littérature de fantastique et d'horreur américaine de ces 30 dernières années, mais un chapitre de ce bouquin n'y suffirait pas. Il me faudrait pour cela un livre entier, et sans doute serait-ce un livre barbant, voire une thèse, le summum du livre barbant. Vu les buts que nous nous sommes fixés, il est de toute façon inutile de traiter de tous les ouvrages publiés dans le domaine qui nous intéresse. La plupart d'entre eux sont franchement nuls, et comme je l'ai dit plus haut à propos de la télé, je ne souhaite pas perdre mon temps à répertorier les méfaits perpétrés par certains de mes confrères. Si vous avez envie de lire les bouquins de John Saul et de Frank de Felita, je ne vous en empêcherai pas. C'est votre fric. Mais ne comptez pas sur moi pour parler d'eux dans ces pages. J'ai l'intention de discuter de 10 livres qui me paraissent représentatifs de ce que l'horreur peut faire de mieux. Des œuvres à la fois littéraires et divertissantes qui ont leur place dans la littérature du XXe siècle, tout en étant les dignes successeurs d'œuvres telles que Frankenstein, Le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, Dracula et Le roi en jaune de Robert W. Chambers. Des romans et des nouvelles qui me semblent accomplir le principal devoir de la chose littéraire, nous dire la vérité sur nous-mêmes tout en nous racontant des mensonges à propos de personnes n'ayant jamais existé. Certains de ces livres ont été des best-sellers. D'autres ont été écrits par des membres de ce qu'on appelle le milieu du fantastique. D'autres encore sont dus à des écrivains qui n'ont aucun intérêt pour le fantastique, mais qui ont vu en lui un outil particulièrement efficace qu'ils pouvaient se permettre d'utiliser une fois dans leur carrière. Bien que nombre d'entre eux aient découvert par la suite que l'usage du fantastique pouvait devenir une habitude. La plupart de ces livres, même ceux qui n'ont jamais figuré sur les listes de best-sellers, n'ont pas cessé de se vendre au fil des années. Sans doute parce que l'histoire d'horreur, que la plupart des critiques dits sérieux considèrent de la même façon que le Dr. Johnson considérait les femmes prêcheuses et les chiens danseurs, est toujours divertissante quand elle se contente d'être bonne. Quand elle est excellente, elle acquiert une puissance, voire par exemple Sa Majesté des Mouches, qui est rarement à la portée des autres formes de littérature. La vigueur narrative a toujours été la principale vertu du conte d'horreur, de La Main de Singe à Children of the Kingdom, l'incroyable court roman de T.E.D. Klein, où des monstres, venus du Costa Rica en plus, vivent en secret dans les égouts de New York. Si bien qu'on aimerait parfois que certains des plus grands écrivains contemporains, qui ont réussi ces dernières années à battre des records de platitude, s'attaquent à ce domaine, plutôt que de continuer à contempler leur nombril en quête de révélations intellectuelles. En discutant de ces 10 livres, j'espère parvenir à souligner leurs vertus narratives, et peut-être même à dégager certains des thèmes inhérents aux chefs-d'œuvre de la littérature d'horreur. Je devrais y arriver si je fais bien mon boulot, car les pistes thématiques du genre ne sont guère nombreuses. En dépit de la fascination mythique qu'il exerce sur nous, le domaine fantastique n'est guère étendu comparé à celui de la littérature dans son ensemble. Nous pouvons compter sur la réapparition du vampire, sur celle du loup-garou, notre cher ami velu, dont la fourrure est parfois intériorisée, et sur celle de la chose sans nom. Mais l'heure est également venue d'abattre la 4e carte archétypale de notre tarot, le fantôme. Peut-être retrouverons-nous également la tension entre Apollon et Dionysos, car elle est omniprésente dans la littérature d'horreur, de qualité ou non, et nous ramène à cette question essentielle entre toutes, qui est OK et qui ne l'est pas. C'est bien le fond des choses, pas vrai? Et nous verrons aussi que la principale différence entre l'horreur ancienne et l'horreur moderne, c'est le narcissisme. Que les monstres ne sont pas seulement attendus dans Maple Street, mais qu'ils peuvent aussi apparaître dans notre miroir, d'un instant à l'autre. 2. Ghost Story de Peter Straub est probablement le meilleur roman fantastique publié depuis l'émergence de la nouvelle vague des années 1970, laquelle a déferlé suite à la publication de 3 livres, à savoir Un bébé pour Rosemary, L'exorciste et Le visage de l'autre. L'immense popularité de ces romans publié en l'espace de 5 ans, a convaincu les éditeurs, qui l'avaient peut-être oublié, que la littérature d'horreur jouissait d'un potentiel commercial dépassant largement le lectorat de magazines défunts, tels que Weird Tales ou Unknown, ou celui des rééditions en format de poche des livres publiés par Arkham House. Les éditeurs se sont alors empressés de rechercher de nouveaux best-sellers terrifiants, ce qui les a malheureusement conduits à publier quantité de mauvais livres. Si bien que la nouvelle vague a commencé à se retirer vers le milieu des années 1970, abandonnant les lieux à des best-sellers traitant de sujets plus familiers, le sexe, le monde des affaires, le sexe, l'espionnage, le sexe homo, le milieu hospitalier, le sexe bizarre, les alcôves de l'histoire, le sexe des vedettes, la guerre et le sexe. Ce qui ne veut pas dire que les éditeurs aient définitivement renoncé à acheter ou à publier des romans d'horreur. La meule du moulin de l'édition tourne lentement mais sûrement, ce qui explique en partie la quantité de gruau qui sort des presses des plus grands éditeurs new-yorkais chaque printemps et chaque automne. Et ce qu'on appelle le roman d'horreur grand public n'est pas près de disparaître des librairies. Mais le temps des vaches grasses est révolu, et les directeurs littéraires new-yorkais ne se précipitent plus automatiquement sur leur contrat type dès qu'un monstre apparaît dans un manuscrit. Écrivain débutant, notez bien ça sur vos tablettes. C'est dans ce contexte que Coward, McCann and Joe Egan a publié en 1975 le Julia de Peter Straub. Il ne s'agissait pas de son premier roman. 2 ans auparavant, il avait publié Marriages, un bouquin de littérature générale sur les mœurs de nos contemporains. Bien que Straub soit américain, sa femme et lui ont vécu 10 ans en Angleterre et en Irlande. Et Julia peut être considérée comme une histoire de fantôme à l'anglaise, sur le plan du concept comme sur celui de l'exécution. L'action se situe en Angleterre. La plupart des personnages sont anglais et, détail des plus importants, la diction du roman est elle aussi anglaise. Froide, rationnelle, presque détachée de toute émotion. Pas un instant l'intrigue ne vire au grand guignol, bien que sa donnée de base s'y prête à merveille. Kate, la fille de Julia et de Magnus, s'est étouffée sur un morceau de viande, et Julia l'a tuée accidentellement en tentant de pratiquer sur elle une trachéotomie avec un couteau de cuisine. Puis il semble que la petite fille revienne sous la forme d'un esprit maléfique. La trachéotomie ne nous est pas racontée en détail. Le sang sur les murs et sur les mains de la mère, la terreur et les hurlements. Cette scène appartient au passé. Nous n'en voyons que l'image rémanente. Plus tard, Julia aperçoit une petite fille, qui est peut-être le fantôme de Kate, en train d'enterrer quelque chose dans le sable. Une fois la fillette partie, Julia creuse un trou et découvre un couteau, puis le cadavre mutilé d'une tortue. Cette allusion à la trachéotomie ratée est élégante, mais guère percutante. 2 ans plus tard, Straub publiait un 2e roman fantastique. « Tu as beaucoup changé, Allison. » Tout comme Julia, « Tu as beaucoup changé, Allison » s'intéresse à l'idée du revenant, cet esprit vengeur issu d'un passé qui se refuse à mourir. Tous les romans fantastiques de Straub se montrent efficaces quand ils traitent du motif du fantôme. Dans leurs intrigues, le passé continue d'exercer sur le présent une influence maléfique. On a avancé l'hypothèse que Ross MacDonald écrivait des romans gothiques plutôt que des histoires de privé. De même, on pourrait dire que Peter Straub écrit des romans gothiques plutôt que des romans d'horreur. Ce qui caractérise sa manière, dans Julia, dans « Tu as beaucoup changé, Allison » et surtout dans « Ghost Story », c'est son refus de considérer comme statiques les conventions du roman gothique. Ces 3 romans ont beaucoup de choses en commun avec les classiques du genre. Le château d'Otrante, le moine, Melmoth, l'homme errant, voire Frankenstein. Même si ce dernier est, en termes de narration, plus proche du roman moderne que du roman gothique. Ce sont des livres où le passé finit par devenir plus important que le présent. Ceux d'entre vous qui ont conscience de l'importance de l'histoire diront sans doute qu'il s'agit là d'une ambition louable pour toute forme romanesque. Mais le roman gothique a toujours été considéré comme une curiosité, un levier obscur de la grande machine littéraire anglophone. À mon sens, les deux premiers romans de Straub sont des tentatives en grande partie inconscientes d'actionner ce levier. Ce qui distingue Ghost Story, ce qui en fait une telle réussite, c'est que Straub semble désormais avoir compris, de façon consciente, la nature du roman gothique et ses relations avec le reste de la littérature. En d'autres termes, il a découvert le mode de fonctionnement de ce fichu levier, et Ghost Story est un manuel d'instruction extraordinairement passionnant. Ghost Story est né après que j'ai lu tous les contes et romans fantastiques américains que j'avais pu trouver, déclare Straub. J'ai relu Hawthorne et James, puis je me suis procuré tout Lovecraft, ainsi que pas mal de livres des membres de son gang. Tout ça parce que je souhaitais étudier la tradition dans laquelle je m'inscrivais, étant désormais résolu à écrire dans le domaine du fantastique, et j'ai aussi lu Beers, les histoires de fantômes d'Edith Wharton, et pas mal d'auteurs européens. La première idée qui m'est venue, c'est celle d'un groupe de vieillards en train de se raconter des histoires. J'espérais pouvoir trouver un truc me permettant ensuite de lier ces histoires entre elles. J'aime bien l'idée d'une histoire enchâssée dans un roman. Apparemment, j'ai passé une bonne partie de ma vie à écouter les personnes âgées me raconter des histoires sur leur famille, leur jeunesse. Et cela me paraissait être un défi en termes formels. Puis j'ai eu l'idée de cannibaliser certains classiques pour les intégrer au répertoire de la Chowder Society. C'était une idée qui m'excitait. Elle me paraissait aussi audacieuse que bonne. Si bien que, après avoir rédigé une partie du bouquin, j'ai produit des versions un peu tordues de « Mon parent, le major Molineux » et du « Tour d'écrou ». Puis je me suis attaqué à « La chute de la maison Usher ». Mais le résultat me sembla alors quelque peu envahissant. Alors j'ai laissé tomber l'histoire de Poe. Celle de Hawthorne a disparu quand j'ai révisé mon premier jet. Je pensais que les membres de la Chowder Society feraient suivre ces histoires des leurs propres. Le monologue de Lewis sur la mort de sa femme, les monologues croisés de Sears et de Ricky sur la mort d'Eva Galli. Ce qui frappe de prime abord dans Ghost Story, c'est sa ressemblance avec Julia. Ce livre commence par nous montrer une femme qui a perdu un enfant. Ghost Story débute avec un homme qui en a trouvé un. Mais ces deux enfants sont étrangement semblables, et ils sont entourés d'une même atmosphère maléfique. Extrait de Julia. Elle y était à peine entrée, dans un parc, qu'elle revit la petite fille blonde. L'enfant était assise par terre, à quelque distance d'un groupe de garçons et de filles qui l'observaient attentivement. Avec une intense concentration, la petite fille faisait quelque chose avec ses mains. Son visage était d'un sérieux adorable, ce qui donnait à la scène une atmosphère de représentation théâtrale. Les jambes allongées devant elle, la petite fille était assise au pied d'un tas de sable. Elle s'était mise à parler à voix basse à son auditoire, assise sur l'herbe maigre par groupe de trois ou quatre. Ils étaient d'un calme vraiment étonnant, entièrement pris par le jeu de la petite fille. Cette petite fille, qui captive son public en découpant une tortue devant lui, est-elle la même que celle qui accompagne Don Wanderley lors de l'étrange voyage qui le conduit de Milburn, dans l'état de New York, à Panama City en Floride? Voici comment elle apparaît à Don pour la première fois. À vous de décider. Ce fut ainsi qu'il la trouva. Au début, lorsqu'il la vit apparaître sur le terrain de jeu un après-midi, il n'en était nullement certain. Elle n'était pas belle, ni même jolie. Brune, avec un regard intense et des vêtements pas très propres. Les autres enfants l'évitaient. Les enfants étaient peut-être plus prompts que les adultes à sentir qu'elle était différente. En fait, Don possédait un seul indice tendant à prouver qu'elle n'était pas une petite fille comme les autres, et il s'y accrochait avec opiniâtreté. La première fois qu'il l'avait vue, il avait senti son sang se glacer. Julia, dans le roman qui porte son nom, interroge une petite fille noire sur la fillette sans nom qui a mutilé la tortue. La petite fille noire s'approche de Julia et engage la conversation en lui demandant « Comment tu t'appelles ?»«
Julia. »
La bouche de la fillette s'ouvrit encore davantage.
« Julia ?»
Julia posa brièvement la main sur la toison élastique de l'enfant. « Et toi, comment t'appelles-tu »«
Mona. »
« Tu connais la petite fille qui jouait ici il y a un moment ?»«
La petite fille blonde qui était assise et qui parlait ?»
Mona inclina la tête.
« Tu sais comment elle s'appelle ?»
Mona inclina de nouveau la tête.
« Julia. »« Julia ?»« Mona, emmène-moi. »
Que faisait la fille blonde, Mona ? Elle racontait des histoires ?
« Elle fait des choses. »
La petite fille plissa les yeux. Dans Ghost Story, Don Wanderley a avec un enfant une conversation similaire portant sur la petite fille qui le trouble tant. « Comment s'appelle cette petite fille ?» lui demanda-t-il en la désignant. Mal à l'aise, le petit garçon baissa les yeux et murmura
« Angie ».
« Angie comment ?»«
Je ne sais pas. »
« Pourquoi aucun des autres ne joue-t-il avec elle ?» Le petit garçon le regarda avec méfiance, puis, trouvant sans doute Don digne de confiance, se pencha vers lui, et mettant ses mains en cornet comme pour révéler un grave secret, lui souffla à l'oreille
« Parce qu'elle est affreuse !»
Mais ces deux romans partagent un autre thème, un thème digne de Henry James. L'idée que les fantômes, en dernière analyse, s'emparent des mobiles et peut-être des âmes de ceux qui les voient. S'ils s'avèrent maléfiques, le mal qu'ils expriment vient de nous. Même en proie à la terreur, les personnages de Straub sont conscients de ce cousinage. Ces fantômes, à l'instar de ceux conjurés par Henry James, Edith Wharton et M.R. James, sont d'essence freudienne. C'est seulement lors de leur ultime exorcisme que les fantômes de Straub deviennent véritablement inhumains, des émissaires du royaume du mal extérieur. Lorsque Julia demande à Mona comment s'appelle la petite fille tueuse de tortues, Mona lui répond par son propre nom. « Julia », dit-elle. Et dans Ghost Story, lorsque Don Wanderley essaie d'en savoir plus sur la nature de l'étrange petite fille, il s'ensuit une conversation des plus inquiétantes. « Soit », dit-il. « Essayons de nouveau.
Qu'es-tu ?»
Pour la première fois depuis qu'il l'avait emmenée dans la voiture, elle sourit vraiment. C'était un changement, mais qui ne le mit pas davantage à son aise. Elle avait toujours l'air aussi adulte.
« Tu le sais, » dit-elle.
Il insista.
« Qu'es-tu ? »
Sans cesser de sourire, elle fit cette réponse étonnante.
« Je suis toi. »
« Non, je suis moi, tu es toi. »
« Je suis toi. »
Ghost Story apparaît de prime abord comme un mélange extravagant de toutes les conventions de l'horreur et du gothique telles que nous avons pu les voir exposées dans les films de série B, examinés lors des chapitres précédents. On y trouve des mutilations animales, un cas de possession démoniaque. Gregory Bate, un des personnages secondaires, tabasse sa petite sœur, qui réussit à lui échapper, et son petit frère, qui y échoue. On y aperçoit des vampires, des goules. Au sens littéral du terme, Gregory dévore ses victimes après les avoir tuées, et des loups-garous aussi singuliers que terrifiants. Mais toutes ces sinistres légendes ne sont que des masques dissimulant le véritable cœur du roman, à savoir une femme qui est peut-être Eva Galli, ou Alma Mobley, ou Anna Mostyn, ou encore une petite fille en robe rouge censée s'appeler Angie Mall.
« Qu'es-tu ? » lui demande Don. « Je suis toi, » répond-elle.
Et c'est là que le cœur de cet extraordinaire roman semble battre avec le plus de force. Après tout, si le fantôme nous semble si terrifiant, n'est-ce pas parce qu'il nous donne à voir notre propre visage? Quand nous l'observons, nous devenons pareils à Narcisse, qui fut frappé si fort par la beauté de son reflet qu'il en perdit la vie. Si nous redoutons le fantôme, c'est pour la même raison que nous redoutons le loup-garou. Il représente une partie enfouie au fond de nous et que les restrictions apolliniennes sont impuissantes à maîtriser. Il peut passer à travers les murs, disparaître, parler avec la voix d'un inconnu. C'est notre part dionysiaque, mais c'est quand même nous. Straub semble conscient du caractère potentiellement horrifique de son matériau de base. Mais c'est une situation qu'il retourne à son avantage, d'une façon digne d'éloge. Les personnages eux-mêmes ont l'impression de se trouver au cœur d'une histoire d'horreur. Le principal d'entre eux, Don Wanderley, est un écrivain spécialisé dans le genre. Et dans la ville de Milburn, à quoi se réduit peu à peu l'univers de ce livre, se trouve enchâssé l'univers du Rialto de Clark Mulligan, un cinéma où se déroule un festival du film d'horreur, un microcosme à l'intérieur du macrocosme. Dans l'une des scènes clés du livre, Gregory Bates jette le jeune Peter Barnes, un des bons du roman, à travers l'écran pendant que la nuit des morts-vivants est projetée devant une salle vide. La ville de Milburn se retrouve isolée par la neige et envahie par les morts-vivants, et Barnes est alors littéralement catapulté à l'intérieur du film. Ça ne devrait pas marcher. Ça devrait sembler ringard et grotesque, mais ça marche. Et ce, grâce au style ferme et élégant de Straub. Et cela renforce le motif spéculaire de ce livre. Trois des épigraphes de celui-ci forment une libre adaptation de la légende de Narcisse et nous obligent à ne pas oublier que le visage qu'on voit dans le miroir est aussi le visage de celui qui regarde. Ce livre nous suggère que si nous avons besoin d'histoires de fantômes, c'est parce que nous sommes nous-mêmes des fantômes. Cette idée est-elle si étrange, si paradoxale, quand nous considérons la brièveté de notre vie dans un monde où les séquoias vivent 2000 ans et les tortues des Galapagos un bon millier d'années? Si Ghost Story est une œuvre aussi magistrale, c'est en grande partie parce que, des quatre archétypes que nous avons mentionnés, celui du fantôme est le plus puissant. Le concept du fantôme est au surnaturel ce que le concept du Mississippi est au Huckleberry Finn de Mark Twain. Bien plus qu'un symbole ou un archétype, c'est un élément essentiel de cet océan mythique dans lequel nous devons tous nous baigner. Avant la confrontation qui conclut l'exorciste, le jeune prêtre demande à son aîné « Vous ne voulez pas que je vous détaille les manifestations des différents esprits qui la possèdent ?» Il entreprend de les énumérer, mais le père Merrin l'interrompt sèchement. Il n'y en a qu'un. Et bien que Ghost Story regorge de vampires, de loups-garous et de ghouls cannibales, on n'y trouve en fait qu'une seule créature. Alma, Anna, Anne Veronica et la petite Angie Maul. Don Wanderley la décrit comme un métamorphe, ce que les Indiens appelaient un Manitou. Mais c'est là une branche de l'arbre plutôt que ses racines. Toutes ces manifestations ne sont que des accessoires. Lorsqu'on les a écartées, on se retrouve face à face avec la carte la plus importante de notre tarot, le fantôme. Nous savons qu'un fantôme n'est pas nécessairement maléfique. En fait, nous connaissons tous des histoires de fantômes bienveillants. Le spectre qui a dit à tante Clarissa de ne pas prendre tel avion, ou celui qui a conseillé à Papy Vic de rentrer chez lui en vitesse parce que la maison était en feu. Ma mère m'a raconté que son ami Émile avait reçu la visite de Jésus-Christ alors qu'il venait d'être hospitalisé suite à une crise cardiaque. Jésus a ouvert la porte de la chambre d'Émile et lui a demandé comment il se sentait. Émile a avoué que ça n'allait pas fort et a demandé à Jésus s'il était venu le chercher. « Pas encore », a dit Jésus en s'adossant à la porte d'un air nonchalant. « Tu as encore 6 ans à vivre, détends-toi. » Puis il est parti. Émile s'est rétabli. Ça se passait en 1953. Ma mère m'a raconté cette histoire vers 1957. Émile est mort en 1959, 6 ans après sa crise cardiaque. J'ai moi-même utilisé quelques bons fantômes dans mes bouquins. À la fin du fléau, Nick Andros, un personnage mort peu de temps avant dans une explosion, apparaît à Tom Cullen, un demeuré au grand cœur, pour lui expliquer comment soigner Stuart Redman, le héros du livre qui est atteint d'une pneumonie. Mais dans le contexte d'un roman d'horreur, le fantôme est toujours maléfique, et nous nous retrouvons en conséquence en terrain familier. L'examen du conflit entre Apollon et Dionysos, et la surveillance du mutant. Dans Ghost Story, Don Wanderley est convoqué par quatre vieillards qui ont formé un club baptisé la Chowder Society. Le cinquième membre, à savoir l'oncle de Don, est décédé l'année précédente, apparemment d'une crise cardiaque, après avoir participé à une soirée en l'honneur d'Anne Veronica Moore, une mystérieuse actrice. Comme pour tous les bons romans gothiques, il serait injuste de donner un résumé plus détaillé de l'intrigue de celui-ci. Non par crainte de gâcher les surprises réservées aux lecteurs confirmés du genre, nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de neuf, vu l'intention affichée par Straub d'opérer une fusion entre le maximum d'éléments de l'histoire de fantômes classiques, mais parce que tout roman gothique qui se respecte apparaît comme complexe et laborieux quand on en donne un résumé. La plupart d'entre eux reposent sur une intrigue complexe, et leur réussite dépend uniquement de la capacité qu'a l'auteur de vous faire croire à leur personnage et de vous plonger dans leur ambiance. À cet égard, la réussite de Straub est éclatante, et les mécanismes de son roman fonctionnent à la perfection. Même s'ils ne le font pas dans la discrétion, comme je l'ai déjà fait remarquer, c'est là en partie ce qui fait le charme du gothique. Ça fait un sacré boucan. Son style est une merveille d'équilibre et d'élégance. Les données de base de Ghost Story suffisent à en préciser le conflit moteur. Tout comme dans le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, c'est un conflit opposant l'apollinien et le dionysiaque, et la morale qui s'en dégage, comme c'est le plus souvent le cas en littérature d'horreur, est fermement réactionnaire. Quant à ses opinions politiques, elles sont identiques à celles des quatre membres de la Chowder Society. Sears James et John Jeffrey sont de fervents républicains. Lewis Benedict possède dans la forêt l'équivalent d'un fief médiéval, et bien que l'on nous dise à un moment donné que Ricky Hawthorne fut jadis socialiste, il est peut-être le seul socialiste de l'histoire à être si fasciné par ses cravates neuves qu'il a parfois envie de les porter au lit. Tous ces hommes, ainsi que Don Wanderley et le jeune Peter Barnes, sont considérés par Straub comme des êtres pleins de courage, d'amour et de générosité. Et comme Straub lui-même me l'a fait remarquer dans une lettre, aucune de ces qualités n'est contraire à la notion de réactionnaire. En fait, peut-être même qu'elles la définissent. Par contraste, le revenant féminin, tous les fantômes maléfiques de Straub sont féminins, est un être froid et destructeur qui ne vit que pour la vengeance. Lorsque Don fait l'amour avec cette créature, incarnée dans la personne d'Alma Mobley, il la touche durant la nuit et... ce fut comme si je recevais une secousse, non pas électrique, mais une sorte de sentiment de révulsion, comme si j'avais touché une limace. Et durant un week-end qu'il passe avec elle, Don se réveille et voit Alma debout près de la fenêtre, abîmée dans la contemplation de la brume. Il lui demande ce qui ne va pas, et elle lui répond quelque chose. Il tente d'abord de se persuader qu'elle lui a dit « J'ai vu un fantôme ». Plus tard, il est bien forcé d'admettre qu'elle a peut-être dit « Je suis un fantôme ». Mais un nouvel effort de mémoire achève de le convaincre qu'elle lui a dit quelque chose de beaucoup plus révélateur. « Tu es un fantôme ». Commence alors une bataille dont l'enjeu est la survie de Milburn, ainsi que celle des trois derniers membres de la Chowder Society. En dépit de la complexité de l'intrigue et de l'abondance des personnages, le plan de bataille est d'une clarté exemplaire. Dans un camp, nous avons trois vieillards, un jeune homme et un adolescent, qui prennent garde aux mutants. Le mutant arrive. Et à la fin, le vainqueur nous est révélé. Voilà qui n'a apparemment rien d'extraordinaire. Ce qui distingue Ghost Story, ce qu'il fait sortir du lot, c'est l'effet de miroir construit par Straub. Quelle Alma est la véritable Alma? Quel mal est le véritable mal? Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de distinguer deux types de romans d'horreur. Ceux qui traitent du mal intérieur, comme le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, et ceux qui traitent du mal extérieur, voire par exemple Dracula. Mais il arrive parfois que paraisse un livre où il est impossible de tracer la ligne de partage entre ces deux tendances. La Maison hantée est un livre de ce type. Ghost Story en est un autre. Nombreux parmi les écrivains qui se sont attaqués à l'horreur sont ceux qui ont compris que c'était grâce à cette ligne de partage floue que l'on pouvait distinguer les bons romans des romans géniaux. Mais dire est une chose, et faire en est une autre. Et la plupart d'entre eux, en tentant d'exploiter le paradoxe découlant de cette constatation, n'ont réussi à produire que des brouillons confus. Voir par exemple « L'amour mort ou vif » de Richard Lortz. Dans ce cas de figure, soit on met dans le mille, soit on rate la cible. Straub ne la rate pas. En fait, je voulais travailler sur une plus grande échelle que précédemment, déclare Straub. Je voulais peindre une toile immense. Salem m'avait montré comment y parvenir sans se perdre au sein de tous les personnages secondaires. En outre, je voulais développer des effets plus tonitruants. On m'avait inculqué l'idée suivant laquelle une histoire d'horreur est d'autant plus réussie qu'elle est sobre, retenue et ambiguë. En lisant Salem, je me suis rendu compte que les tenants de cette notion partaient toujours perdants. Une histoire d'horreur est d'autant plus réussie qu'elle est violente et bariolée, qu'on lui permet d'exprimer toutes celles de ses qualités qui la rapprochent de l'opéra. J'ai donc décidé d'étendre le registre de mes effets, d'amener des scènes chocs, de créer une tension insoutenable, d'écrire des scènes de terreur glaçante. En résumé, disons que je me suis senti investi d'une immense ambition. J'étais résolu à écrire un roman qui serait très littéraire et qui aborderait tous les aspects possibles de l'histoire de fantôme. Et je voulais aussi m'amuser un peu avec la réalité, me débrouiller pour que mes personnages ne sachent plus distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. J'ai donc créé des situations où ils avaient l'impression de 1. Jouer des rôles de personnages romanesques. 2. Regarder un film. 3. Être en proie à des hallucinations. 4. Être en train de rêver. 5. Être transporté dans un monde imaginaire. C'est à mon avis ce type de matériau que notre genre de prédilection est le mieux à même de traiter, de par sa nature même. C'est un matériau absurde et incroyable qui convient parfaitement à une ligne narrative où les personnages ont à faire face à tout un tas de situations, dont certaines leur apparaissent comme foncièrement irréelles. Et il me semblait approprié de construire une telle intrigue à partir de l'image d'un groupe d'hommes en train de se raconter des histoires. Une forme d'auto-référence qui me satisfait toujours quand je la retrouve dans le cadre d'un roman. Si la structure narrative a une relation avec les événements décrits, le livre acquiert une résonance supérieure. Straub nous livre une dernière anecdote sur son travail d'écrivain. Un incident des plus heureux, alors que j'allais m'attaquer à la deuxième partie, deux témoins de Jéhovah ont frappé à ma porte, et je leur ai acheté 3 ou 4 brochures. L'une d'elles portait une manchette relative à un certain Dr. Rabbitfoot. C'était le titre du récit d'un joueur de trombone nommé Trammy Young, qui a jadis joué dans l'orchestre de Louis Armstrong. Le Dr. Rabbitfoot était un autre joueur de trombone qu'il avait rencontré étant enfant. J'ai aussitôt récupéré ce nom, et j'ai commencé la deuxième partie avec ce personnage. Un peu plus loin dans le livre, le jeune Peter Barnes est pris en autostop par un personnage qui est soit Alma Mobley, soit une de ses créatures. Il s'agit d'un petit homme rondouillard conduisant une voiture bleue, un témoin de Jéhovah. Il donne à Peter un exemplaire de la tour de garde, ce que le lecteur s'empresse d'oublier vu la nature explosive des événements qui occupent les 40 pages suivantes. Mais Straub ne l'a pas oublié. Plus tard, lorsqu'il raconte son histoire à Don Wanderley, Peter lui montre la brochure que lui a donnée le témoin de Jéhovah. La manchette en est la suivante. « Le docteur Rabbitfoot m'a entraîné dans le péché. » On se demande si c'était ces mots qui figuraient sur l'exemplaire de la tour de garde que les témoins de Jéhovah ont vendu à Straub, alors qu'il travaillait dans son appartement de Londres sur le premier jet de Ghost Story. 3. Abandonnons à présent les fantômes pour passer à leur habitat naturel, ou surnaturel si vous préférez, la maison hantée. Il existe d'innombrables histoires de maisons hantées, la plupart assez médiocres. La cave aux atrocités de Richard Layman fait partie des moins réussies. mais ce petit sous-genre a également produit bon nombre d'excellents bouquins. Je ne pense pas que La Maison Hantée soit à proprement parler une carte de notre tarot des mythes surnaturels. Mais il nous suffit d'élargir un peu cette notion pour découvrir un nouveau courant de notre océan mythique. Faute de mieux, nous pourrions baptiser ce nouvel archétype le lieu maléfique, un terme qui peut désigner bien autre chose que la maison en ruine de Maple Street, avec sa pelouse envahie par le chien dent, ses fenêtres cassées et son écriteau à vendre en train de moisir. Je n'ai pas l'intention de consacrer ces pages à mes propres œuvres, mais le lecteur sait sans doute que j'ai déjà traité l'archétype du lieu maléfique au moins à deux reprises. La première de façon oblique, dans Salem, la seconde de façon plus directe, dans Shining. J'ai commencé à m'intéresser au sujet le jour où un de mes copains et moi-même avons décidé d'explorer la maison hantée du coin, un bâtiment décrépit de Deep Cut Road dans ma bonne ville de Durham, Maine. Comme il sied à toute maison abandonnée, celle-ci était baptisée du nom de ses derniers propriétaires en date. Les citoyens de Durham l'appelaient la maison Marsten. Cet édifice délabré se dressait en haut d'une colline d'où le regard embrassait une bonne partie de notre quartier, le dit quartier étant surnommé Methodist Corners. Elle était remplie d'objets aussi divers que fascinants. Des flacons sans étiquette, contenant encore des produits pharmaceutiques à l'odeur suspecte, des piles de revues moisies. « Les Japs déferlent de leurs tranchées à Iwo Jima !» pouvait-on lire sur la couverture d'un vieux numéro d'Argosy. Un piano pourvu d'au moins 25 touches hors d'usage. Des tableaux représentant des gens morts depuis des siècles et dont les yeux semblaient vous suivre. De l'argenterie oxydée, quelques rares meubles. La porte était fermée à clé, et on y avait cloué un panneau annonçant « défense d'entrée », une inscription si ancienne qu'elle était à peine lisible. Mais ça ne nous a pas arrêtés. De tels avertissements sont en général sans effet sur des gamins de 10 ans. On est tout simplement passé par la fenêtre. Après avoir soigneusement exploré le rez-de-chaussée, vérifiant au passage que les antiques allumettes que nous avions trouvées dans la cuisine ne produisaient qu'une atroce puanteur quand on les craquait, nous sommes montés à l'étage. Ce que nous ignorions, c'est que mon frère et mon cousin, respectivement âgés de 12 et de 14 ans, nous avaient suivis dans la maison. Alors qu'on commençait à fouiner dans les chambres de l'étage, ils se sont mis à jouer une mélodie discordante sur le piano du salon. Mon copain et moi avons poussé un hurlement et nous sommes serrés l'un contre l'autre. L'espace d'un instant, nous avons connu une terreur absolue. Puis nous avons entendu ces deux crétins éclater de rire et nous avons échangé un sourire penaud. Aucune raison d'avoir peur. Ce n'était que deux grands en train de foutre la trouille à deux petits. Non, vraiment, aucune raison d'avoir peur. Mais je ne pense pas que nous ayons jamais remis les pieds dans cette maison. En tout cas pas après la tombée de la nuit. Peut-être y avait-il quelque chose. Et cette baraque n'était même pas un véritable lieu maléfique. Quelques années plus tard, j'ai lu un article développant l'hypothèse selon laquelle les prétendues maisons hantées seraient en fait des accumulateurs psychiques. Elles absorberaient ainsi les émotions manifestées entre leurs murs à la façon d'une batterie de voiture absorbant l'électricité. Si bien que, à en croire l'auteur de l'article, le phénomène psychique que nous avons baptisé du nom de hantise ne serait qu'une sorte de show paranormal, la rediffusion de voix et d'images anciennes ayant trait à des événements passés. Et si nombre de maisons hantées sont évitées par la population et acquièrent la réputation de lieux maléfiques, c'est peut-être parce que les émotions les plus puissantes sont aussi les plus primitives. La rage, la haine et la peur. Je n'ai pas pris cette théorie pour parole d'évangile. Il me semble que l'écrivain qui s'intéresse aux phénomènes psychiques se doit de les traiter avec respect, tout en conservant une certaine dose de scepticisme. Mais elle m'a paru fort intéressante, à la fois pour elle-même et parce qu'elle rejoignait confusément une idée que j'entretenais déjà depuis un bon moment. Le passé est un fantôme qui hante constamment notre existence présente. Et étant donné l'éducation méthodiste plutôt rigoureuse qui m'a été dispensée, je me suis demandé si la maison hantée ne pouvait pas devenir le symbole d'un péché non expié. une idée qui est devenue le pivot de mon roman Shining. Si cette théorie me plaisait pour elle-même, hors de tout contexte moral ou symbolique, c'est parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les morts auraient envie de traîner dans des maisons désertes, agitant leurs chaînes et poussant des gémissements lugubres dans le seul but d'effrayer les passants. Ils ont sûrement mieux à faire. Voilà un passe-temps qui me semble bien peu passionnant. Cette théorie suggère que les habitants de la maison hantée, après être partis pour un monde meilleur, ont laissé derrière eux un résidu psychique. Mais le dit résidu est peut-être quand même extrêmement dangereux, tout comme la peinture à base de plomb, qui attend plusieurs années pour attaquer l'organisme de ceux qui ont eu l'imprudence d'en avaler des débris écaillés durant leur enfance. Mon expérience dans la maison Marsten, à laquelle se sont rajoutés cet article et les cours que j'ai donnés sur le Dracula de Stoker, m'a donné l'idée de créer une maison Marsten fictive dans la ville de Jerusalem Slott, en haut d'une colline non loin du cimetière de Harmony Hill. Mais Salem est une histoire de vampires et non de hantise. La maison Marsten n'en forme qu'une fioriture, un peu l'équivalent gothique d'un appendice. Elle est là, et bien là, mais elle ne fait pas grand-chose à part créer une certaine atmosphère. Tob Hooper lui donne un peu plus d'importance dans son adaptation, mais son but principal semble surtout d'avoir l'air bien menaçante en haut de sa colline. J'ai donc décidé de revenir sur cette théorie de maison en tant que batterie psychique et d'écrire une histoire centrée autour de ce concept. Shining se déroule dans le comble du lieu maléfique, un hôtel hanté plutôt qu'une maison hantée, avec un film d'horreur bien réel dans presque toutes ses chambres. Inutile de dire que le lieu maléfique n'est pas forcément une maison. Il existe quantité d'histoires où la hantise s'exerce dans une gare, dans une voiture, dans un pré ou dans un immeuble de bureau. La liste est quasiment infinie et nous ramène à cet homme des cavernes qui a changé de grotte parce qu'il entendait des voix dans la sienne pendant la nuit. Était-ce de vraies voix ou bien le bruit du vent? C'est une question que nous nous posons encore quand la nuit est bien noire. Je compte discuter ici de deux romans consacrés à l'archétype du lieu maléfique. Le premier est très bon et le second excellent. En fait, il est question d'une maison hantée dans tous les deux. Ce qui n'est que justice, je pense. Une gare ou une voiture hantée, c'est grave. Mais la maison est le lieu où nous ôtons notre armure et posons notre bouclier. C'est à l'abri de notre maison que nous nous permettons d'être vulnérables comme nulle part ailleurs. Nous enlevons nos vêtements et nous nous endormons sans la présence d'un gardien. Hormis peut-être deux des robots les plus populaires de notre société, le détecteur de fumée et l'alarme anti-cambrioleur. À en croire le poète Robert Frost, le foyer est le lieu où on est obligé de nous accueillir quand nous y arrivons. Et il y a tous ces aphorismes millénaires. Le foyer est là où se trouve le cœur. Rien ne vaut son chez-soi. C'est l'amour qui fait d'une maison un foyer. On parle au sens figuré de la chaleur du foyer. Et les pilotes qui reviennent de mission disent qu'ils rentrent à la maison. Et même si vous êtes perdu en terre étrangère, vous trouverez sûrement un restaurant qui apaisera votre faim et votre mal du pays avec des petits plats mitonnés comme à la maison. Permettez-moi de souligner une nouvelle fois que l'horreur est l'intrusion du frisson dans le familier et que les meilleurs récits d'horreur fournissent des frissons aussi soudains qu'imprévus. Quand nous rentrons chez nous et refermons le verrou de notre porte, nous pensons barrer le passage au danger. Le motif du lieu maléfique nous chuchote au contraire que tous les dangers ne sont pas au dehors. Nous nous sommes enfermés avec eux. Les deux romans qui m'intéressent adhèrent de façon assez stricte aux conventions du thème de la maison hantée. Le lecteur fait l'expérience d'une série de hantises destinées à renforcer l'impression qu'il a d'être en présence d'un lieu maléfique. On pourrait même avancer que la meilleure définition d'une maison hantée est la suivante. Une maison à l'histoire peu ragoûtante. L'auteur ne doit pas se contenter de faire défiler les clichés habituels du genre. Spectre dûment pourvu de chaînes, porte qui s'ouvre ou se ferme toute seule en pleine nuit, bruit bizarre à la cave ou au grenier. Le grenier est un lieu particulièrement apte à abriter la terreur. Avez-vous jamais exploré le vôtre à la lueur d'une bougie alors que l'électricité était coupée pour cause de tempête? Le récit de maison hantée nécessite un contexte historique. La maison d'à côté, Dan Rivers Siddons, 1978, et La maison hantée de Shirley Jackson, 1959, fournissent tous deux ce contexte historique. Jackson le donne d'emblée dès le premier paragraphe de son roman, exposant l'argument de son récit dans une prose superbe et onirique. Aucun organisme vivant ne peut demeurer sain dans un état de réalité absolue. Même les alouettes et les sauterelles rêvent, semble-t-il. Mais Hill House, seule et maladive, se dressait depuis 80 ans à flanc de colline, abritant en son sein des ténèbres éternelles. Les murs de briques et les planchers restaient droits à tout jamais. Un profond silence régnait entre les portes soigneusement closes. Ce qui déambulait ici, scellé dans le bois et la pierre, errait en solitaire. Rares sont les passages descriptifs de la littérature anglaise plus réussis que celui-ci. C'est là le genre d'épiphanie que tout écrivain espère rencontrer au moins une fois dans sa carrière. Des mots qui transcendent les mots. Un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. L'analyse d'un tel paragraphe est une entreprise aussi mesquine que risquée. Le genre de tâche qu'on doit laisser aux professeurs de lycée et d'université, ces entomologistes de la littérature qui, lorsqu'ils aperçoivent un superbe papillon, s'empressent d'attraper leur filet, de le capturer, de le tuer d'une goutte de chloroforme et de l'épingler sous une plaque de verre, obtenant ainsi un papillon toujours aussi superbe, mais raide mort. Cela dit, analysons-le quand même un peu. Je vous promets cependant que je m'abstiendrai de tuer et d'épingler ce papillon-là. Je n'en ai ni l'envie ni la capacité. Prenez n'importe quelle thèse de lettres, classique ou moderne, et je vous montrerai une collection de papillons morts, aussi atrocement tués qu'ils sont maladroitement épinglés. Nous nous contenterons de l'endormir quelques instants avant de le laisser reprendre son envol. Je souhaite seulement vous faire remarquer la richesse de ce paragraphe. Il commence par nous suggérer que Hill House est un organisme vivant. Il nous dit ensuite que cet organisme vivant n'est pas placé dans un état de réalité absolue. Comme il ne rêve pas, et là, peut-être que je vais au-delà des intentions de Mrs. Jackson, il n'est pas sain. Ce paragraphe nous informe de la durée de son existence, établissant d'emblée le contexte historique si important pour une histoire de maison hantée. Et il conclut en nous apprenant que quelque chose rôde dans les pièces et les couloirs de Hill House. Et tout ça en deux phrases. Jackson avance, sans en avoir l'air, une idée encore plus troublante. Elle nous suggère que Hill House semble de prime abord complètement normal. Rien à voir avec la maison Marsten de Salem, cette sinistre bâtisse aux fenêtres condamnées, aux toits affaissés et aux murs écaillés. Rien à voir avec ces ruines sinistres au fond des impasses, ces maisons que les enfants bombardent durant le jour et craignent d'approcher la nuit tombée. Hill House a plutôt belle allure. Mais d'un autre côté, on pouvait en dire autant de Norman Bates, du moins si l'on n'y regardait pas de trop près. Il n'y a pas de courant d'air dans Hill House, mais celle-ci, ainsi que les inconscients qui osent y entrer sans doute, ne se trouve pas placée dans un état de réalité absolue, et elle ne rêve pas. Par conséquent, elle est folle. Et apparemment, elle tue. Là où Shirley Jackson nous présente un historique, une sorte de genèse surnaturelle en guise de point de départ, Anne Rivers Siddons en fait la trame même de son histoire. La maison d'à côté ne peut être considérée comme un roman que si on y privilégie l'évolution de sa narratrice, Colquitt Kennedy, qui demeure avec son mari Walter juste à côté de la maison hantée. Cette proximité entraîne de profonds changements dans leur existence et dans leur mentalité, et le livre ne devient un roman que lorsque Colquitt et Walter se sentent obligés d'intervenir. Cela se produit de façon satisfaisante lors des 50 dernières pages du bouquin. Mais avant ce tournant, Colquitt et Walter ne font figure que de personnages secondaires. Le livre est divisé en trois parties, et chacune d'elles forme une histoire complète. Trois familles se succèdent dans la maison hantée, les Harrelson, les Sheehan et les Green, et c'est par leur entremise que se dessine son portrait. En d'autres termes, Là où la maison hantée plante le décor au moyen d'une genèse surnaturelle, voir par exemple l'histoire de la jeune épousée qui est tuée quelques secondes avant de voir Hill House pour la première fois, la maison d'à côté aurait pu être sous-titrée « Comment on fait une maison hantée ?» Cette approche est parfaitement exploitée par Mrs. Siddons, qui n'écrit pas dans un style aussi limpide que Mrs. Jackson, mais s'acquitte néanmoins de sa tâche d'une façon fort honorable. L'intrigue de son livre est solide, et ses personnages attachants. « Des gens comme nous n'intéressent pas le magazine People », nous dit la première phrase du bouquin. Et Colquitt entreprend ensuite de nous raconter comment son mari et elle, des gens pourtant fort discrets, se sont retrouvés dans les pages de People, rejetés par leurs voisins et détestés par les agents immobiliers, désireux qu'ils étaient de raser la maison d'à côté. La dite maison n'a rien d'un manoir gothique festonné de lambeaux de brume glaciale. On n'y trouve ni créneaux, ni douves, ni chemins de ronde. D'ailleurs, comment imaginer un tel édifice dans la banlieue d'Atlanta? Et lorsque le récit commence, la maison hantée n'est même pas encore bâtie. Colquitt et Walter demeurent dans un quartier prospère de la banlieue d'Atlanta. La vie sociale de ce quartier, nous sommes dans le Nouveau Sud, nous dit Colquitt, mais les vertus du Vieux Sud ont encore la vie dure, est placée sous le signe du calme, de l'aisance et de la tradition. À côté de leur maison se trouve un terrain qui n'a jamais été construit, en raison d'une topographie difficile. Entre Kim Doherty, jeune et ambitieux architecte. Il édifie sur ce terrain une maison de style contemporain qui lui va comme un gant. En fait, elle semble presque vivante. Colquitt nous décrit sa réaction lorsqu'elle en découvre les plans.
Je retins mon souffle. Elle était splendide. D'ordinaire, je n'aime pas trop l'architecture contemporaine, mais cette bâtisse était différente. Elle s'imposait étrangement à vous et en même temps vous charmait. Telle que le dessin la représentait, elle semblait surgir du sol, comme quelque entité originelle qui aurait attendu, enfouie sous terre depuis des millénaires, le moment où elle pourrait enfin jaillir à la lumière. Elle épousait l'arête divisant le terrain, se dressant parmi les arbres, comme si elle n'était pas le résultat d'un assemblage de poutres et de pierres, mais plutôt le fruit d'une graine, qui aurait longtemps enfoncé ses racines dans le sol, pour un jour éclore à l'air et au soleil. Le ruisseau sinuait à ses pieds, comme l'irrigant de vie. Elle semblait aussi évidente que la mer ou le ciel. Les événements se succèdent de façon ordonnée. Des changements dionysiaques affectent cette banlieue apollinienne où il y a une place pour chaque chose et où chaque chose est à sa place. Cette nuit-là, quand Colquitt entend un hibou ululer dans le bosquet où va être bâtie la maison de Doherty, elle fait un nœud au coin du drap pour éloigner la malchance, comme le faisait sa grand-mère. Doherty travaille pour le compte d'un jeune couple, les Haraldson, mais il aurait accepté de bosser pour Adolf Hitler et Eva Braun, confie-t-il au Kennedy. C'est la maison qui l'intéresse, pas ses propriétaires. Buddy Haraldson est un jeune avocat plein d'avenir. Son épouse, une jeune femme de bonne famille que tout le monde appelle Paille, surnom que lui avait donné son père, commence par perdre son bébé lors d'une fausse couche, qui se produit dans la maison alors qu'elle est enceinte de 4 mois, puis elle perd son chien, et finalement, le soir de la pendaison de crémaillère, elle perd tout le reste. Départ des Haraldson, arrivée des Sheehan. Buck et son épouse Anita se remettent de la perte de leur fils unique, qui a péri au Vietnam à bord de son hélicoptère. Anita, qui sort d'une dépression nerveuse consécutive à ce deuil, son père et son frère sont morts plusieurs années auparavant lors d'un accident étrangement semblable, voit apparaître à plusieurs reprises sur l'écran de la télévision les images de la mort atroce de son fils. Un voisin venu en visite est le témoin partiel de cette hantise. D'autres incidents se produisent. L'horreur atteint son comble, et adieu les Sheehan. Puis c'est au tour des Green, et la fête continue. Si ce récit semble familier, cela ne devrait pas nous surprendre. La maison d'à côté est construite comme un conte à tiroir, le genre de conte qu'aurait pu écrire Chaucer s'il avait travaillé pour Weird Tales. C'est là un exercice plus fréquent au cinéma qu'en littérature. En fait,
Les cinéastes semblent souvent résolus à appliquer un des préceptes favoris des critiques du genre. Le récit d'horreur est d'autant plus réussi qu'il est bref et direct. La plupart des critiques attribuent ce précepte à Edgar Poe. Mais Coleridge l'avait précédé sur ce terrain, et Poe énonçait un principe valable pour tous les genres de nouvelles, et non seulement pour celles relevant du fantastique. Ce précepte débouche le plus souvent sur des échecs cuisants, ce qui me paraît fort intéressant. La plupart des films d'horreur à sketch sont franchement ratés, ou au mieux inégaux. La maison d'à côté est-il un roman efficace ? Je pense que oui. Il n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être, et le lecteur éprouve en fin de course des sentiments quelque peu ambigus envers Walter et Colquitt Kennedy, mais le résultat reste satisfaisant. Si j'ai écrit « La maison d'à côté », déclare Mrs. Siddons, c'est sans doute parce que j'ai toujours adoré le genre fantastique ou occulte, peu importe le terme choisi. Il me semble que la plupart de mes écrivains préférés ont tous écrit au moins une histoire de fantôme. Henry James, Edith Wharton, Nathaniel Hawthorne, Dickens, etc. Et j'apprécie les œuvres contemporaines autant que les classiques du genre. La maison hantée de Shirley Jackson approche la perfection dans ce domaine. Et l'œuvre que je préfère entre toutes est sans doute « The Lost, Strayed, Stolen » de M.F.K. Fisher. En fait, comme l'affirment toutes les préfaces de toutes les anthologies du genre, l'histoire de fantômes est éternelle. Elle renverse toutes les barrières de classe, de culture et de sophistication. Elle s'adresse directement à notre moelle épinière, au primitif qui sommeille en chacun de nous, tapi près de son feu et terrifié par l'obscurité régnant devant l'entrée de sa grotte. Si la nuit, tous les chats sont gris, on peut dire aussi que tous les hommes ont peur de la nuit. La maison hantée m'a toujours paru être le motif le plus emblématique de l'horreur, sans doute parce que, pour une femme, la maison n'est pas seulement un bâtiment. C'est son royaume, sa responsabilité, son réconfort, son univers. C'est du moins le cas pour la plupart d'entre nous, que nous en ayons ou non conscience. C'est une extension de nous. Elle répond à l'un de nos besoins les plus fondamentaux. Mon abri, ma terre, ma seconde peau, mon bien. À tel point que l'idée qu'elle puisse être profanée, corrompue par un élément étranger, pourrait-on dire, éveille en nous une profonde horreur. C'est à la fois terrifiant et humiliant, à la manière de la visite d'un cambrioleur doublé d'un maniaque sexuel. Une maison ainsi affectée est une abomination, et ce quelle que soit la nature et l'identité du coupable. Si j'ai écrit l'histoire de cette maison neuve qui se révèle, disons, maléfique, c'est tout simplement pour voir si j'étais capable d'écrire une bonne histoire de fantôme. Je m'étais consacré pendant 2 ans à des livres dits « sérieux », ce qui m'avait plongé dans l'épuisement. Et pourtant, j'avais toujours envie d'écrire. Et je me suis dit qu'une histoire de fantôme me changerait un peu les idées. Et alors que je recherchais une accroche pour mon récit, un jeune architecte a acheté la parcelle voisine de la nôtre et a entrepris d'y construire une maison de style contemporain. Mon bureau, que j'ai aménagé dans les combles de notre vieille demeure, donne droit sur cette parcelle boisée. Et je passais des heures à regarder le bâtiment pousser au milieu des arbres. Et un jour, l'idée est née dans mon esprit, et je me suis mis au travail. Supposons, me disais-je, supposons qu'au lieu d'un antique prieuré hanté sur la côte des Cornouailles, au lieu d'une ferme coloniale du comté de Bucks fréquentée par un spectre, au lieu d'une vaste plantation sudiste où une femme en robe de soirée apparaît devant la cheminée en ruine, supposons que l'action se situe dans une maison toute neuve, en plein cœur d'une banlieue aisée. Qu'un prieuré, une ferme ou une plantation soit hantée, cela n'a rien de surprenant. Mais une maison contemporaine, n'est-ce pas là une innovation particulièrement cruelle? Un contraste particulièrement horrifiant? C'est ce que je me suis dit. Je ne sais toujours pas comment j'ai imaginé que la maison utiliserait sa beauté pour attirer les gens, puis se retournerait contre eux en exploitant leurs faiblesses. Notre époque est placée sous le signe du pragmatisme et du matérialisme, et un spectre conventionnel aurait semblé presque risible. Dans le milieu où j'envisageais de placer mes personnages, on ne croit pas à ces choses-là. C'est presque un manque d'éducation. Si bien qu'un fantôme traditionnel aurait fini par fuir sous les quolibets.
Qu'est-ce qui pouvait donc atteindre mes banlieusards si sophistiqués? Qu'est-ce qui réussirait à briser leurs relations, à abattre leurs défenses, à percer leur armure? Chaque problème devait trouver une solution différente. Chacun de nous abrite sa propre phobie. Prenons une maison susceptible de déceler et d'exploiter cette phobie, et nous avons un bel exemple de terreur banlieusarde. L'intrigue du roman a été écrite d'une seule traite, déjà fourmillante de détails, comme si elle sommeillait en moi depuis belle lurette. Il ne m'a fallu qu'un seul jour pour dresser le plan de la maison d'à côté. Je jubilais à l'idée de me mettre au travail, persuadé que ce livre-là serait des plus faciles à écrire. Et dans un sens, j'avais raison. Ces personnages m'étaient déjà familiers. J'habite dans leur monde. Je sais presque tout d'eux. La plupart du temps, bien entendu, ce ne sont que des caricatures. Grâce à Dieu, la plupart de mes proches sont beaucoup plus excentriques et beaucoup moins confis dans leurs habitudes. Mais la banalité que je leur prêtais était nécessaire à mon propos, et je n'ai eu aucune peine à fouiller leur psychologie. Mon but en écrivant ce livre n'était pas de m'étendre sur la maison ou sur son horrible pouvoir, mais d'exposer ses effets sur le quartier, sur les relations entre voisins, entre amis, et même entre parents et époux. De dire ce qui se passait quand des gens ordinaires se retrouvent confrontés à l'incroyable. Pour moi, telle est l'essence du surnaturel. Le surnaturel détruit les relations que les gens ont entre eux et avec leur univers, voire avec eux-mêmes, avec leur essence. Ils se retrouvent alors seuls et sans défense, hurlant de terreur devant la créature en laquelle ils sont bien obligés de croire. Car tout est une question de croyance, de foi. Sans foi, il n'y a pas de terreur. Et je pense que cette terreur est décuplée lorsque c'est une femme ou un homme moderne, protégé par ses privilèges, son éducation, son niveau de vie, sa vision pragmatique et matérialiste des choses, qui se retrouve face à face avec quelque chose de totalement étranger, de totalement maléfique. Que sait-il de ce mal? Quelle place a ce mal dans son existence? Que viennent faire l'indicible et l'incroyable dans une existence placée sous le signe de la résidence secondaire, de l'évasion fiscale, de l'éducation des enfants, de la diététique et du confort automobile? Quand un homme des cavernes hurlait en apercevant un revenant, son voisin le plus proche hurlait avec lui. Le résident de Fox Run Chase, qui aperçoit un spectre près de son jacuzzi, sera la risée de ses proches s'il raconte son expérience sur un court de tennis. Et le voilà, seul avec sa vision d'horreur, victime d'un ostracisme universel. C'est un double tour d'écrou, et je pensais que ça ferait une bonne histoire. Je le pense encore aujourd'hui. Je pense que mon livre tient debout. Mais il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir porter sur lui un jugement objectif. Après en avoir écrit environ un tiers, je ne m'amusais plus beaucoup, et mon travail me semblait aussi oppressant qu'obsessionnel. J'avais compris que mon sujet n'avait rien de drôle, que j'écrivais quelque chose de vraiment horrible. Je tourmentais ou détruisais des gens, ou plutôt je les soumettais au tourment et à la destruction, ce qui revient au même. Il y a en moi un résidu d'éthique puritaine ou de morale calviniste. Je reste persuadé que toute chose doit avoir un but. Je déteste tout ce qui est gratuit. Je crois sincèrement que le mal doit toujours être puni, même si je sais que la réalité me donne tort. En fin de compte, je crois sincèrement que le monstre doit recevoir son châtiment, même si j'ignore si c'est une force ou une faiblesse de ma part. Ce genre d'opinion ne s'accommode guère des subtilités, mais je ne me considère pas comme un écrivain adroit, si bien que j'ai fini par prendre mon roman très au sérieux. Je savais que Colquitt et Walter Kennedy, pour lesquels je m'étais prise d'affection, serait détruit par la maison qu'ils finissent par détruire à la fin du livre. Mais à mes yeux, ils font preuve de panache en passant à l'acte, tout en étant conscients des conséquences. J'étais enchanté de leur courage. J'espère que, si je venais à être placé dans la même situation désespérée, je serais aussi courageuse qu'eux. Et si je parle comme si je ne contrôlais pas mes personnages, c'est parce que c'est l'impression que j'ai eue. Et que j'ai encore aujourd'hui. La conclusion du roman me semble inévitable, et avec le recul,
Elle l'était dès que j'en ai écrit la première page. Si les choses se sont déroulées de cette manière, c'est parce que ainsi le voulait le lieu, l'époque et les personnages. Ce sentiment me procure une profonde satisfaction que je ne ressens pas forcément à l'égard de tous mes livres. C'est aussi pour cette raison que je pense que celui-ci est réussi. À son niveau le plus superficiel, je pense qu'il s'agit d'un bon exemple d'histoire d'horreur, juxtaposant le terrifiant et l'ordinaire. La « terreur en plein soleil » dont parlait Henry James. Un bébé pour Rosemary est le meilleur roman de ce type que j'ai jamais lu, et c'est là un effet que j'ai délibérément cherché à reproduire. Ce qui m'a plu en outre, c'est le fait que tous les personnages restent extrêmement sympathiques, du moins à mes yeux, et je n'ai pas changé d'avis sur ce point. Je me faisais du souci pour eux à mesure que j'avançais dans l'écriture du roman, et ils sont encore chers à mon cœur. Peut-être s'agit-il aussi d'un bon exemple d'horreur contemporaine. Et peut-être est-ce là l'avenir du genre. Dans ce meilleur des mondes où nous vivons, ce n'est pas le spectre lugubre aux chaînes cliquetantes qui aura raison de nous, c'est notre maison elle-même. Dans un monde où les éléments les plus essentiels de notre existence, le fondement de notre vie, deviennent terribles et inconnus, peut-être que notre unique recours est la parcelle d'honnêteté innée que nous recelons au fond de notre cœur. Et dans un sens, cela ne me semble pas si mal. La phrase la plus frappante du témoignage de Mrs. Siddons, du moins en ce qui me concerne, est la suivante. « À mes yeux, écrit-elle, ils font preuve de panache en passant à l'acte, tout en étant conscients des conséquences. Voilà un sentiment qui peut nous apparaître comme foncièrement sudiste. Et en dépit de son ton polissé, Anne Rivers Siddons s'inscrit sans aucun doute dans la tradition des écrivains de gothique sudiste. Elle nous dit avoir renoncé aux ruines de la plantation sudiste, mais en un sens, la maison d'à côté a toutes les caractéristiques de cet édifice monstrueux et hanté qui a déjà abrité des écrivains si différents et pourtant si semblables que William Faulkner, Harry Cruse et Flannery O'Connor, sans doute le plus grand nouvelliste américain de l'après-guerre. C'est un lieu où même un écrivain aussi lamentable que William Bradford Huey a séjourné de temps à autre. Si on compare l'expérience sudiste à une terre fertile, on peut dire que presque tout écrivain, bon ou mauvais, qui se sent à l'aise sur cette terre, peut y planter une graine et la voir pousser. En guise d'exemple, je vous recommande un roman de Thomas Cullinan intitulé « Les proies », qui a inspiré un excellent film de Don Siegel avec Clint Eastwood. Voilà un roman qui est correctement écrit, comme le dit un de mes potes, à savoir rien d'extraordinaire. Ce n'est ni du Saul Bellow, ni du Bernard Malamud. Mais ce bouquin ne s'abaisse pas au niveau de ceux de Howard Robbins et de Sidney Sheldon, deux types qui ignorent apparemment la différence entre une phrase bien balancée et une pizza à la merde et aux anchois. Si Cullinan avait décidé d'écrire un roman plus conventionnel, sans doute que personne n'y aurait prêté attention. Mais il a choisi de raconter l'histoire aussi dingue que gothique d'un soldat nordiste qui perd sa jambe et ensuite sa vie, aux mains d'un groupe d'anges de miséricorde demeurant dans une école de jeunes filles épargnées par les troupes de Sherman. Tel est le petit arpent que Cullinan a choisi de cultiver dans cette terre dont la fertilité ne laisse pas de surprendre. On est tenté de croire qu'une telle idée ne déboucherait ailleurs que sur un bien pauvre roman. Mais dans la terre du Sud, la graine a donné une moisson aussi belle que monstrueuse. Le lecteur est pétrifié d'horreur en découvrant ce qui se passe entre les murs de cette école de jeunes filles. D'un autre côté, quelqu'un comme William Faulkner a fait bien plus que de planter quelques graines. C'est lui qui a défriché le terrain, et tout ce qu'il y a fait pousser, à partir de 1930, date à laquelle il a véritablement découvert le gothique, a donné d'excellentes récoltes. À mes yeux, l'essence du gothique sudiste chez Faulkner se trouve dans son roman Sanctuaire, lors de la scène où Popeye monte sur l'échafaud. Il s'est soigneusement peigné pour l'occasion, mais lorsqu'il se retrouve la corde au cou et les mains liées dans le dos, voilà que ses cheveux lui retombent sur le front. Il se met à secouer la tête pour les remettre en place. « Je vais t'arranger ça !» lui dit le bourreau, qui tire le levier actionnant la trappe. Exit Popeye, les cheveux dans les yeux. Je crois du fond du cœur qu'aucun écrivain né au nord de la ligne Mason-Dixon n'aurait été capable d'imaginer une telle scène, ou de l'écrire correctement s'il avait pu l'imaginer. Idem pour la longue et éprouvante scène de la salle d'attente qui ouvre le court roman de Flannery O'Connor, intitulé « Révélation ». L'imagination sudiste est le seul endroit susceptible d'abriter une salle d'attente de ce type. Seigneur Jésus, quelle équipe ! Pour me résumer, il y a dans l'imagination sudiste quelque chose de fertile et de terrifiant, et ce quelque chose s'exprime à merveille dans le genre gothique. L'histoire des Haraldsson, la première famille à habiter le lieu maléfique, montre clairement que notre auteur a décidé d'exploiter la veine gothique sudiste. Pye Haraldsson, cette jeune femme de bonne famille et de bonne éducation, éprouve une attraction relativement malsaine pour son père, un homme sanguin originaire du sud profond. Elle semble parfaitement consciente du triangle formé par son père, son mari et elle-même au sommet. Il lui arrive souvent de mettre délibérément en conflit les deux hommes de sa vie. La maison n'est qu'un nouveau pion dans le jeu d'amour-haine qu'elle joue avec son père. « Elle veut le remettre à sa place une bonne fois pour toutes », commente l'un des personnages. Lors de sa première conversation avec Colquitt et Walter, Pye s'exclame d'un ton enjoué à propos de sa future maison « Oh, je sens que papa va la détester. Oh, il va en faire une crise. » Pendant ce temps, Buddy est pris sous l'aile de Lucas Abbott, un nouvel employé du cabinet d'avocats où il travaille. Abbott vient du Nord, et nous apprenons en passant qu'il a quitté New York à la suite d'un scandale. Une histoire plutôt louche avec un avoué. La maison d'à côté, qui, comme le dit Siddons, se retourne contre les gens en exploitant leurs faiblesses, utilise ces éléments disparates de la façon la plus horrible qui soit. Lors de la pendaison de crémaillère, Pye se met soudain à hurler. Les invités se précipitent vers elle pour voir ce qui se passe. Ils découvrent Buddy Haraldsson et Lucas Abbott tout nus dans la chambre qui sert de vestiaire. C'est le papa de Pye qui les a pris sur le fait, et il est en train de mourir, effondré sur le sol, victime d'une crise cardiaque, pendant que Pye continue de hurler, encore et encore. C'est pas du gothique sudiste, ça ? L'essence de l'horreur dans cette scène, qui me rappelle un passage de Rebecca, celui où la narratrice jette un froid dans l'assistance en descendant le grand escalier, vêtue de la robe jadis portée par l'horrible première épouse de Maxime, c'est que les conventions sociales n'ont pas seulement été bafouées, elles nous ont carrément explosé à la gueule. Siddons amène cette explosion avec un sens consommé de l'écriture. Jamais les choses n'auraient pu plus mal tourner. Des vies et des carrières sont irréparablement brisées en l'espace de quelques secondes. Nous n'allons pas nous lancer ici dans l'analyse psychologique de l'écrivain d'horreur. Il n'y a rien de plus fastidieux que les gens qui vous posent des questions du genre « Pourquoi êtes-vous si bizarre ?» ou « Votre mère a-t-elle été terrorisée par un chien à deux têtes pendant sa grossesse ?» Ne comptez donc pas sur moi pour m'engager sur ce terrain. Mais je voudrais néanmoins vous faire remarquer que l'impact de la maison d'à côté s'explique en grande partie par le sens aigu des convenances dont est doté son auteur. Tout écrivain d'horreur a une conception très claire, j'irais jusqu'à dire maladive, de la frontière séparant ce qui est socialement, ou moralement, ou psychologiquement acceptable, de la terra incognita, du tabou. Siddons se montre plus apte que la plupart de ses confrères, Daphné du Maurier mis à part, a tracé la ligne de partage entre l'acceptable et le cauchemardesque. Et je vous parie que ses parents lui ont souvent répété qu'on ne met pas les coudes sur la table. Pas plus qu'on ne sodomise ses copains dans le vestiaire. Elle revient sans arrêt sur cette rupture des conventions sociales, tout comme elle le faisait dans un de ses précédents romans, Une jeune fille du Sud, et sur le plan symbolique, la maison d'à côté peut être considérée comme un traité à la fois comique et horrifique sur les us et coutumes des banlieues prospères. Mais sous cet aspect superficiel bat le cœur du gothique sudiste. Colquitt nous confie qu'elle serait incapable de dire à sa meilleure amie ce qu'elle a vu, le jour où Anita Sheehan a définitivement perdu l'esprit, mais elle n'épargne aucun détail au lecteur. Horrifié ou pas, Colquitt a tout vu. Au début du bouquin, elle se livre à une comparaison entre le vieux Sud et le nouveau Sud. Mais le bouquin lui-même en est une autre. De prime abord, nous avons affaire à un univers caractérisé par l'inévitable berline Mercedes tabac brun, les vacances à Sainte-Agnès, les Bloody Mary chez Rinaldi. Mais il suffit de gratter un peu cette couche superficielle pour apercevoir ce qui fait battre le cœur de ce roman avec une telle force, à savoir le vieux Sud, le gothique sudiste. La maison d'à côté ne se déroule qu'en apparence dans une banlieue aisée d'Atlanta. Son domaine est le même territoire dangereux dont Flannery O'Connor a dressé la carte. Colquitt Kennedy a des liens de parenté incontestables avec la Mrs. Turpin créée par O'Connor, qui attendait une révélation dans sa porcherie. Si le roman de Mrs. Siddons a un défaut, celui-ci réside dans les sentiments que nous inspirent Walter, Colquitt et Virginia Guthrie, le troisième personnage principal. Ces trois-là ne nous semblent guère sympathiques. Et même si aucune loi ne les y oblige, le lecteur est en droit de se demander pourquoi Siddons les aime tant, comme elle l'affirme elle-même. Durant la majeure partie du récit, Colquitt en particulier est nettement antipathique. Vaniteuse, un peu snobinarde, un peu radine, à la fois pudibonde et vaguement exhibitionniste. « Nous n'avons qu'une envie, mener une existence paisible », nous dit-elle avec une certaine suffisance. « Le désordre, la violence nous sont insupportables. Nous connaissons la misère qui accable tant de gens un peu partout dans le monde. Nous restons à l'écoute, nous sommes attentifs à l'actualité et nous professons des opinions plutôt progressistes en politique. Nous sommes conscients d'avoir tissé une espèce de cocon autour de nous, mais nous l'avons voulu, nous y avions droit. Nous avons travaillé dur pour cela. » En toute honnêteté, ce discours est en partie conçu pour souligner les changements subis par Colquitt et Walter à la suite des manifestations surnaturelles dans la maison voisine, laquelle ne ménage pas ses efforts pour les secouer. L'intention de Siddons est de nous faire comprendre que les Kennedy accèdent à un nouveau niveau de conscience sociale. Après l'épisode des Sheehan, Colquitt déclare à son mari « Tu sais, Walter, nous n'avons jamais connu de réelles difficultés. Nous avons toujours pris ce que la vie pouvait avoir de meilleur et nous en avons bien profité. Je me demande si nous ne venons pas de rencontrer là notre première épreuve. » Dans ce cas, Siddons a gagné son pari. Les Kennedy paient leur courage de leur vie. Le problème, c'est que le lecteur risque de se dire qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. L'idée que se fait Siddons de l'évolution des Kennedy est aussi plus vague que je ne le souhaiterais. S'il remporte bien une victoire, c'est à mon avis une victoire à la Pyrrhus. Ils sont convaincus que leur devoir est d'avertir l'opinion des dangers présentés par la maison d'à côté, mais cette conviction détruit leur existence sans pour autant leur apporter un quelconque apaisement. Et l'épilogue du roman semble nous suggérer que leur victoire n'est, au mieux, que provisoire. Colquitt ne se contente pas de porter un chapeau de paille pour faire son jardin. Elle porte un chapeau de paille mexicain. Elle est légitimement fière de son travail, mais le lecteur sera peut-être gêné par l'opinion qu'elle se fait de sa beauté. « J'avais ce que je voulais, et je n'avais pas besoin de l'adoration de très jeunes hommes, même si, ma modestie dut-elle en souffrir, certains des employés de mon agence me l'avaient parfois offerte. » Nous savons que les jeans moulants lui vont particulièrement bien. C'est elle-même qui nous en informe. Et nous avons l'impression que si ce livre avait été écrit un ou deux ans plus tard, elle nous aurait confié qu'elle se sentait très bien dans ses jeans Calvin Klein. Pour me résumer, son personnage n'est pas de ceux avec lesquels le commun des mortels s'identifie aisément. Et je pense que c'est au lecteur de décider si le catalogue de ses tics et de ses manies sert ou dessert l'engrenage cauchemardesque du roman. Les dialogues posent également certains problèmes. À un moment donné, Colquitt accueille Anita Sheehan en ces termes. « Eh bien, je vous souhaite de nouveau la bienvenue, Anita Sheehan, parce que vous êtes une autre femme, une que j'aime beaucoup, et j'espère que vous serez heureuse, très heureuse ici. » Voilà des sentiments fort louables, je le concède. Mais je me demande s'il existe vraiment des gens qui s'expriment de cette façon, même dans le Sud. Parlons franchement. le principal défaut de la maison d'à côté, c'est la psychologie plutôt vague des personnages. L'exécution de ce roman présente d'autres défauts, surtout apparents dans les dialogues, la narration étant adéquate et les métaphores souvent étrangement belles. Néanmoins, c'est une réussite totale dans le registre du gothique. À présent, permettez-moi de suggérer que, outre son appartenance au gothique sudiste, la maison d'à côté, en dépit des défauts que je viens de souligner, est également une réussite dans un autre domaine, bien plus important à mes yeux. Ce roman est un parfait exemple de ce qu'Irving Malin appelle le nouveau gothique américain. C'est aussi le cas de Ghost Story d'ailleurs, bien que Straub me semble bien plus conscient de la nature du gibier qu'il a piégé. Ce qu'indique clairement l'utilisation qu'il fait du mythe de Narcisse et du motif du miroir. John G. Park a repris ce concept de nouveau gothique américain dans un article paru dans Critique, Studies in Modern Fictions. Park s'intéresse avant tout au roman Le Cadran solaire, mais son propos peut également s'appliquer à quantité de textes de fantastique et d'horreur américains, y compris certains de ceux que j'ai écrits. Voici la liste des ingrédients nécessaires au gothique moderne, tel que l'adresse Park dans son article. Premièrement, un microcosme assimilable à une arène où s'affrontent des forces universelles. Dans le livre de Siddons, c'est la maison d'à côté qui remplit ce rôle. Deuxièmement, la maison gothique doit fonctionner comme une image d'autoritarisme, d'emprisonnement ou de narcissisme étouffant. Par narcissisme, Park et Malin entendent apparemment une obsession croissante du personnage pour ses propres problèmes. Le personnage se referme sur lui-même plutôt que de s'ouvrir sur l'extérieur. Le nouveau gothique américain nous présente des êtres fonctionnant en circuit fermé. Et, dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier d'illusion psychologique pathétique, un décor qui reflète le plus souvent le repli sur soi des personnages. Cette description correspond parfaitement au cadran solaire. C'est là un changement aussi passionnant que fondamental dans l'orientation du gothique. Jadis, le lieu maléfique était considéré par les critiques comme un symbole de la matrice, un symbole avant tout sexuel, ce qui faisait du gothique un moyen commode de traiter des peurs sexuelles. Park et Malin suggèrent que le nouveau gothique américain, dont la gestation s'est déroulée durant les 20 ans ayant suivi la publication de La Maison Hantée, utilise le lieu maléfique pour symboliser non plus l'intérêt pour le sexe et la crainte du sexe, mais l'intérêt pour soi et la crainte de soi. Et si quelqu'un demande pourquoi les films et les romans d'horreur ont acquis une telle popularité durant les 5 dernières années, faites-lui remarquer que l'avènement de l'horreur durant la fin des années 1970 et le début des années 1980 s'est déroulé parallèlement à celui du Rolfing, du cri primal et du jacuzzi. Et que la plupart des films d'horreur à succès, de L'Exorciste à Frisson de Cronenberg, sont de parfaits exemples de nouveaux gothiques américains où la matrice symbolique est remplacée par un miroir symbolique. Tout ceci ressemble à des délires d'universitaires, mais je parle sérieusement. Le but de l'horreur n'est pas seulement d'explorer le territoire du tabou, mais aussi de réaffirmer notre attachement au statu quo en nous montrant des images extravagantes qui lui sont antinomiques. À l'instar des cauchemars les plus terrifiants, les films d'horreur sont le plus efficaces quand ils retournent le statu quo sans dessus-dessous. Ce qui nous terrifie peut-être le plus chez Mr. Hyde, c'est qu'il a toujours été une partie du Dr. Jekyll. Et dans une société américaine, de plus en plus obnubilée par le culte du moi, il n'est guère surprenant de constater que l'horreur s'applique de plus en plus à nous montrer un reflet particulièrement désagréable, le nôtre. En regardant de plus près la maison d'à côté, nous constatons que nous pouvons reposer la carte du fantôme. On ne trouve aucun spectre proprement dit dans la maison où se succèdent les Haraldson, les Sheehan et les Green. La carte qui semble s'appliquer à ce roman est celle-là même que nous trouvons toujours dans notre main quand il est question de narcissisme. La carte du loup-garou. Consciemment ou inconsciemment, les histoires de loup-garou traditionnelles reprennent presque toujours l'histoire classique de Narcisse. Dans la version de Lon Chaney Jr., nous voyons celui-ci en train de se regarder dans l'inévitable étang alors qu'il passe de l'état de monstre à celui de Larry Talbot. La même scène se produit dans le pilote de la série télé L'Incroyable Hulk, lorsque ce vieux peau verte retrouve les traits de David Banner. Dans La Nuit du Loup-Garou, une production Hammer, nous avons encore droit à la même scène, le rôle étant interprété ici par Oliver Reed. Le vrai problème posé par la maison d'à côté, c'est qu'elle transforme les gens en ce qu'ils détestent le plus. Le vrai secret de la maison d'à côté, c'est que c'est une loge d'artistes pour loups-garous. Presque tous les personnages du nouveau gothique américain sont narcissiques d'une façon ou d'une autre, conclut Park. Des êtres faibles qui tentent d'imposer leurs préoccupations à la réalité. Je pense que c'est là un bon portrait de Colquitt Kennedy. Et c'est aussi un bon portrait d'Eleanor, le personnage principal de La Maison Hantée de Shirley Jackson. Et Eleanor Vance est sûrement le personnage le plus abouti de cette tradition du nouveau gothique américain. Selon l'étude rédigée par Lenemaja Friedman, Miss Jackson eut l'idée d'écrire une histoire de fantôme alors qu'elle lisait un livre consacré à un groupe de chercheurs du XIXe siècle qui avait loué une maison hantée afin de l'étudier et d'enregistrer leurs impressions visuelles et auditives pour le compte de la Society for Psychical Research. Comme elle l'écrit elle-même, ils se prenaient pour des hommes de science et croyaient prouver toutes sortes de choses, mais l'histoire que s'obstinait à raconter leur compte-rendu détaché n'était pas celle d'une maison hantée. C'était l'histoire d'un groupe de personnes sincères, à mon avis un peu naïves, très certainement résolues, chacune avec son historique et ses motivations personnelles. Cette histoire la passionna tellement qu'elle décida de créer sa propre maison hantée et son propre groupe de chercheurs. Peu de temps après, alors qu'elle séjournait à New York, elle aperçut près de la station de la 125e rue une maison si grotesque, si sombre et si maléfique d'aspect qu'elle en eut des cauchemars pendant un long moment. Suite à sa demande, un de ses amis new-yorkais fit une petite enquête sur cette maison et découvrit que seule sa façade était intacte, l'intérieur ayant été détruit par un incendie. Pendant ce temps, elle consultait quantité de livres, de revues et de journaux en quête de la photo d'une maison qui conviendrait à son projet. Finalement, elle en trouva une qui lui semblait parfaite. Cette maison ressemblait étrangement à celle qu'elle avait vue à New York. Elle exsudait la maladie et la décomposition, la maison idéale pour un fantôme. D'après la légende de la photo, la maison se trouvait en Californie. Comme sa mère demeurait dans cet état, Jackson lui écrivit pour lui demander des informations complémentaires. Et en fait, non seulement sa mère connaissait très bien la maison en question, mais elle apprit en outre à Miss Jackson que c'était son arrière-grand-père qui l'avait bâti. Hé hé hé, comme disait la vieille sorcière. En surface, la maison hantée suit fidèlement le plan du livre qui a inspiré Miss Jackson. Quatre chasseurs de fantômes se retrouvent dans une maison de sinistre réputation. Le livre raconte leurs aventures et s'achève par une conclusion aussi terrifiante qu'énigmatique. Les chasseurs de fantômes, Eleanor, Théo et Luke, ont été réunis là par le docteur Montague, un anthropologue qui étudie les phénomènes psychiques pour se distraire. Luke, un jeune homme du genre sarcastique, interprété de façon mémorable par Russ Tamblyn dans l'adaptation de Robert Wise, agit en tant que représentant de sa tante, l'actuelle propriétaire des lieux. Il considère toute cette histoire comme une galéjade, du moins au début. Eleanor et Théo ont été invités pour des raisons fort différentes. Montague a fouillé les archives de plusieurs sociétés de recherche psychique et a contacté plusieurs personnes censées avoir eu l'expérience d'événements anormaux, suggérant bien entendu que ces personnes d'un genre spécial seraient intéressées par un séjour à Hill House. Eleanor et Théo sont les seuls à avoir répondu à son invitation, mais leur mobile n'est pas le même. Théo, qui a passé avec un succès étonnant le test des cartes de Ryan, vient de mettre fin à une liaison amoureuse. Dans le film, Théo, interprété par Claire Bloom, nous est présenté comme une lesbienne attirée par Eleanor. Dans le roman de Jackson, on la soupçonne seulement de ne pas être hétéro à 100%. Mais c'est Eleanor, sur qui des pierres sont tombées quand elle était petite, qui est le centre vital de ce roman. Et c'est le personnage d'Eleanor, tel que le dépeint Shirley Jackson, qui hisse la maison hantée dans la catégorie des grands romans fantastiques. En fait, il me semble que La Maison hantée et Le Tour d'écrou de Henry James sont les seuls grands romans fantastiques de ces 100 dernières années. Même si nous pouvons ajouter à ce palmarès des œuvres plus courtes comme Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen et Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft. Presque tous les personnages du nouveau gothique américain sont narcissiques, des êtres faibles qui tentent d'imposer leurs préoccupations à la réalité. Cette description correspond parfaitement à Eleanor. Elle est littéralement obsédée par elle-même, et Hill House lui révèle un immense et monstrueux miroir où se reflète son visage. C'est une femme qui a été profondément traumatisée par son éducation et par sa famille. Quand on plonge dans son esprit, et ça nous arrive durant la totalité du roman, hormis les premiers et derniers chapitres, on ne peut s'empêcher de penser à ces petites filles chinoises dont les pieds étaient comprimés par des souliers trop petits. Sauf que ce ne sont pas les pieds d'Eléanor dont on a stoppé la croissance. C'est la partie de son esprit qui est censée abriter toute velléité d'indépendance. Il est exact que le personnage d'Eléanor est un des plus extraordinaires de l'œuvre de Miss Jackson, écrit Lenemaja Friedman. Le seul qui lui soit supérieur est celui de Mary Cat dans « Nous avons toujours vécu au château ». La personnalité d'Eléanor présente de multiples facettes. Elle peut se montrer enjouée, charmante, spirituelle, quand elle se sent désirée. Elle est généreuse et prête à s'ouvrir aux autres. En même temps, elle reproche à Théo son égoïsme, et elle est prête à l'accuser de mensonge quand elle découvre le message sur le mur. Eleanor a passé de nombreuses années dans un état de haine et de frustration. Elle en est venue à détester sa mère, puis sa sœur et son beau-frère, auxquels elle reproche d'avoir profité de sa nature passive et soumise. Et elle lutte pour ne pas se sentir coupable de la mort de sa mère. Même si le lecteur finit par la connaître relativement bien, elle reste mystérieuse à ses yeux. Ce mystère est dû au doute qu'éprouve Eleanor, à ses changements d'idées et d'humeur qui sont difficiles à expliquer. Comme elle n'a aucune confiance en elle, elle est incapable d'avoir des relations claires avec les autres et avec la maison. Elle sent la force irrésistible des esprits et, finalement, désire se soumettre à eux. Lorsqu'elle décide de ne pas quitter Hill House, nous devons supposer qu'elle sombre dans la folie. Hill House est donc le microcosme où s'affrontent des forces universelles. Et dans son article sur le cadran solaire, publié en 1958, un an avant La Maison hantée, John G. Park évoque le voyage, la tentative pour fuir, pour échapper à cet autoritarisme étouffant. Tel est, en fait, le lieu où débute le voyage d'Eléanor, ainsi que le but de ce voyage. Elle est timide, repliée sur elle-même, soumise. Sa mère est morte, et Eléanor se juge coupable de négligence, voire de meurtre. Après le décès de sa mère, elle est restée sous la domination de sa sœur, et nous assistons à une violente dispute dont l'objet est de savoir si Eleanor aura la permission de se rendre à Hill House. Et Eleanor, qui a 32 ans, prétend d'ordinaire en avoir 34. Elle réussit à fuir, volant plus ou moins la voiture dont elle a partiellement financé l'achat. Elle s'est enfin évadée. Elle tente enfin d'échapper à ce que Park appelle « cet autoritarisme étouffant ». Son voyage la conduira à Hill House, et comme elle se le dit elle-même, avec une intensité de plus en plus fiévreuse à mesure que progresse le récit, les voyages s'achèvent lorsque les amants se rencontrent. Son narcissisme apparaît peut-être le plus clairement lorsqu'elle se perd en rêverie sur le chemin de Hill House. Elle arrête sa voiture, stupéfaite, en découvrant un portail flanqué de deux piliers en ruine au milieu d'une rangée de lauriers roses. Eleanor se rappelle que les lauriers roses sont empoisonnés, puis « Vais-je sortir de la voiture ?» pensa-t-elle, franchir la porte en ruine, puis, une fois dans le carré magique, m'apercevoir que j'ai pénétré au cœur d'un pays magique, dissimulé au regard par cette haie empoisonnée. Lorsque j'aurai dépassé les deux piliers enchantés, la barrière protectrice s'ouvrira devant moi, car le charme sera rompu. J'entrerai dans un jardin exquis, rempli de fontaines, de petits bancs et de rosiers grimpant sur des tonnelles. Il y aura un sentier, pavé de rubis et d'émeraudes peut-être, digne d'accueillir le pas léger d'une fille de roi,
et ce sentier me conduira tout droit au palais endormi par la malédiction. Je gravirai un large escalier gardé par des lions de pierre, et je m'avancerai dans une cour intérieure au milieu de laquelle gazouillera une fontaine. J'y rencontrerai la reine, en pleurs, attendant le retour de la princesse, et nous vivrons heureux pour toujours. L'intensité de cette rêverie est censée nous surprendre, et elle y réussit parfaitement. Elle nous suggère une personnalité pour laquelle le fantasme est devenu un mode de vie, et ce qui arrive à Eleanor dans Hill House comble de façon troublante les désirs qu'exprime cette rêverie. Y compris la dernière phrase, bien que je pense que Shirley Jackson ne me suivrait pas sur ce point. Mais ce passage nous fait surtout prendre conscience de la profondeur quasi pathologique du narcissisme d'Eleanor. Elle n'arrête pas de se faire son petit cinéma mental, et c'est toujours elle l'héroïne de ses films, des films qui sont en fait l'exact contraire de son existence. Elle est douée d'une imagination enfiévrée, fertile et probablement dangereuse. Plus tard, les lions de pierre qu'elle a imaginés dans le passage cité plus haut apparaissent sous la forme de presse-livres dans l'appartement entièrement fictif qu'elle imagine pour le bénéfice de Théo. Dans l'existence d'Eleanor, ce repli sur soi que Park et Maline associent au nouveau gothique américain est une constante. Peu de temps après s'être perdue dans son fantasme de château enchanté, Eleanor s'arrête pour déjeuner et entend une mère expliquer à la serveuse la raison pour laquelle sa fille refuse de boire son lait. Elle veut sa tasse aux étoiles. Il y a des étoiles dans le fond, et c'est toujours dans cette tasse-là qu'elle boit son lait à la maison. Elle l'appelle sa tasse aux étoiles parce qu'en buvant, elle voit apparaître les étoiles au fond. Eleanor adapte aussitôt cette petite scène à son cas personnel.
« Mais oui, évidemment, » songea Eleanor. « Mais oui, bien sûr, une tasse aux étoiles. »
À l'instar de Narcisse, elle est incapable de considérer le monde extérieur autrement que comme un reflet de son univers intérieur. Le climat des deux est toujours identique. Mais laissons quelque temps Eleanor sur la route de Hill House, où on ne l'attend pas avant le début de la soirée. Nous allons la devancer si ça ne vous dérange pas. J'ai dit que la trame de la maison d'à côté était celle d'une genèse surnaturelle. La genèse de Hill House nous est contée de la façon la plus classique qui soit, par le docteur Montague, en une dizaine de pages. La scène se passe, évidemment, autour d'un bon feu de cheminée. En voici les points saillants. Hill House a été bâti par un puritain nommé Hugh Crane. Sa jeune épouse est décédée quelques instants avant de poser les yeux sur Hill House pour la première fois. Sa deuxième épouse est morte des suites d'une chute, pour une raison inconnue. Ses deux petites filles ont habité Hill House jusqu'au décès de sa troisième épouse. Rien à voir avec la maison, la malheureuse se trouvait en Europe. Puis sont allées vivre chez un cousin. Elles ont passé le reste de leur existence à se disputer la propriété de la maison. Plus tard, l'aînée est revenue à Hill House avec une dame de compagnie, une jeune fille du village voisin. Cette dame de compagnie a son importance, car c'est avec elle que Hill House semble nous offrir un reflet de la vie d'Eleanor. Celle-ci a exercé la même fonction durant la longue maladie de sa mère. Après le décès de la vieille Miss Crane, on murmure que la dame de compagnie s'est montrée négligente. On a raconté par la suite que le médecin avait été appelé trop tard, explique Montague, que la vieille demoiselle s'était éteinte toute seule à l'étage, complètement négligée par la jeune servante, occupée à flirter au jardin. La situation ne fait qu'empirer par la suite. La dame de compagnie et la jeune Miss Crane se disputent la propriété de Hill House devant les tribunaux. C'est la dame de compagnie qui l'emporte, et elle se suicide peu après en se pendant dans la tourelle. Quant aux occupants ultérieurs, Hill House a suscité chez eux, disons, un certain malaise. On nous suggère que ce malaise a pris chez nombre d'entre eux des proportions alarmantes. On les aurait vus fuir Hill House en poussant des cris de terreur. En fait, conclut Montague, le mal est la maison elle-même, je crois. C'est elle qui a enchaîné ses occupants et détruit leur vie. Un réservoir de pure méchanceté. Et la question que se pose le lecteur de la maison hantée est la suivante.
Montaigu a-t-il raison ou tort ? Il fait précéder son récit de plusieurs allusions classiques à ce que nous avons appelé le lieu maléfique. Le Lévitique qualifie de lépreuse, Tzarat, les maisons hantées. Homère, lui, parlait de Aidaodomos, c'est-à-dire la maison d'Hadès. « Je n'ai pas besoin de vous rappeler, dit Montaigu, que l'esprit humain, depuis l'aube des temps, proclame certaines maisons comme impures ou interdites, voire sacrées. » Tout comme dans la maison d'à côté, une seule chose est sûre. Hill House n'abrite pas d'authentiques fantômes. Aucun des quatre personnages n'aperçoit le spectre de la dame de compagnie errant dans le couloir, sa gorge ectoplasmique portant encore les traces de la corde. Mais ce détail n'a guère d'importance. Montaigu lui-même précise que, dans tous les comptes rendus de phénomènes psychiques, jamais on ne signale le cas d'une personne blessée par un fantôme. Leur action est plus sournoise et s'exerce uniquement sur le plan mental. Ce que nous savons sur Hill House, c'est qu'elle n'est pas normale. Aucun détail ne nous permet de préciser notre pensée, mais l'impression d'ensemble est irréfutable. En entrant dans Hill House, on a l'impression d'entrer dans l'esprit d'un démon et on ne tarde pas à se sentir mal à l'aise. Aucun œil humain n'est capable d'isoler l'élément précis qui, dans la composition malheureuse des lignes et des espaces, donne une allure diabolique à une maison. Il y avait là cependant un je ne sais quoi, une juxtaposition insensée, un angle mal conçu, une rencontre hasardeuse entre ciel et toiture, par lequel Hill House respirait le désespoir. Vision d'autant plus terrifiante que la façade semblait en éveil, avec ses fenêtres sombres évoquant les yeux d'un vigile, surmontés de temps à autre par le sourcil inquiétant d'une corniche. Et encore plus terrifiant, encore plus précis. Éléanore se ressaisit et tournoya sur elle-même pour contempler la chambre tout entière. Par un incroyable défaut de conception, les dimensions de la pièce paraissaient atrocement faussées. Chacun des murs, qui pourtant se croisaient à angle droit, semblait soit trop court, soit d'une longueur démesurée. « Ils veulent que je dorme ici ?» se dit-elle incrédule. « Quel cauchemar attendent de m'assaillir, tapis au coin de ces hauts plafonds, prêt à souffler la terreur sur mes lèvres !» Elle se reprit de nouveau. « Enfin, Éléanor !» Nous sentons se mettre en place une histoire d'horreur que Lovecraft aurait applaudi des deux mains s'il avait vécu assez longtemps pour la lire. Peut-être même que le maître de Providence en aurait tiré deux ou trois enseignements. HPL était particulièrement sensible au caractère horrible de la géométrie faussée. Il évoquait fréquemment des angles non euclidiens qui torturaient l'œil et l'esprit, suggérant l'existence d'autres dimensions où la somme des angles d'un triangle pouvait être supérieure ou inférieure à 180 degrés. Un tel spectacle, avançait-il, suffisait à vous plonger dans la folie. Et il ne se trompait pas beaucoup. Diverses expériences psychologiques nous ont enseigné qu'en altérant les perceptions physiques d'un sujet, on altère ce qui est peut-être le fondement de l'esprit humain. D'autres écrivains ont tiré parti de cette idée fascinante. Mon texte préféré dans ce registre est une nouvelle de Joseph Payne Brennan intitulée « La cour de Canavan », où un vendeur de livres anciens découvre que son arrière-cour, d'aspect pourtant si ordinaire, est plus vaste qu'il ne semble. Elle s'étend en fait jusqu'aux portes de l'enfer. Dans « The Hour of the Ox Run Dead », un roman de Charles L. Grant, un des personnages se découvre incapable de retrouver les limites de la ville où il a passé toute sa vie. Nous le voyons rouler au ralenti sur l'autoroute, en quête de la bonne sortie. Troublant. Mais c'est sans doute Jackson qui a exploité le mieux ce concept. Mieux que Lovecraft, en tout cas, qui l'avait certes parfaitement compris, mais n'est jamais parvenu à le prouver. Théo entre dans la chambre qu'elle va partager avec Éléanore, jetant un regard incrédule sur le vitrail de la fenêtre, sur une urne décorative, sur le motif du tapis. Pris isolément, ces éléments du décor n'ont rien de remarquable. Mais lorsqu'on ajoute l'équivalent perceptuel de leurs angles, on obtient un triangle, dont la somme des angles est légèrement supérieure ou inférieure à 180 degrés. Comme le fait remarquer Anne Rivers Siddons, Tout est faussé à l'intérieur de Hill House. Rien n'est parfaitement horizontal, rien n'est parfaitement vertical. Ce qui explique peut-être la manie qu'ont les portes de s'ouvrir ou de se fermer toutes seules. Et cette idée de gauchissement est importante pour le concept de lieu maléfique tel que l'entend Shirley Jackson, car elle accentue l'altération des perceptions qu'éprouve le lecteur. Un séjour à Hill House est un peu l'équivalent d'un trip au LSD à faible dose. Tout vous paraît étrange, et vous vous croyez sur le point d'avoir une hallucination. Mais il ne se passe rien de précis. Vous jetez un regard incrédule sur le vitrail d'une fenêtre, ou sur une urne décorative, ou sur le motif d'un tapis. Vous avez l'impression de contempler le décor truqué d'une baraque de foire, ce genre d'attraction où le gogo semble changer de taille suivant l'endroit où il se trouve. Ou encore, vous avez l'impression de vous être couché après avoir bu 3 verres de trop et de sentir votre lit rouler et tanguer lentement. Jackson suggère ceci d'une façon parfaitement rationnelle, et toujours d'une voix posée, insidieuse. C'est peut-être ce livre, ainsi que le tour d'écrou, qui a convaincu Peter Straub qu'une histoire d'horreur est d'autant plus réussie qu'elle est sobre, retenue et ambiguë. Elle ne hausse jamais le ton. Tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'un séjour à Hill House exerce sur les perceptions des effets aussi profonds que pernicieux. Un peu comme si on était en communication télépathique avec un démon. Hill House est maléfique. Acceptons le postulat de Montague. Mais Hill House est-elle la seule responsable des phénomènes qui nous sont décrits? On entend des coups durant la nuit, des coups de canon qui terrifient Théo et Eleanor. Luke et Montague tentent de rattraper un chien et s'égarent à un jette-pierre de la maison. On pense à nouveau à Canavan. La nouvelle de Brennan est parue avant la maison hantée et à l'étrange ville d'Oxran, Connecticut, imaginée par Charles L. Grant. Les vêtements de Théo sont aspergés d'une substance rouge et nauséabonde. « De la peinture rouge, » dit Eleanor, mais sa terreur nous suggère une hypothèse bien plus inquiétante qui disparaît au bout de quelque temps. Et c'est dans cette même substance que sont rédigés ces mots qui apparaissent d'abord dans le corridor, puis ensuite au-dessus de l'armoire où ont été rangés les vêtements souillés. « Rentre à la maison, Eleanor. Au secours, Eleanor. Rentre à la maison, Eleanor. » C'est avec ce message qu'est célébrée l'union d'Eleanor et de la maison, ce lieu maléfique. Hill House l'a choisi. Ou bien est-ce elle qui a choisi Hill House? Quoi qu'il en soit, l'idée d'Eleanor suivant laquelle les voyages s'achèvent lorsque les amants se rencontrent, acquiert soudain une sinistre résonance. Théo, qui est doué d'un certain talent pour la télépathie, soupçonne Eleanor d'être à l'origine de la plupart de ces manifestations. Une sourde tension règne entre les deux femmes, apparemment à cause de Luke, dont Eleanor commence à tomber amoureuse. Mais peut-être surtout à cause de l'intuition de Théo. « Tout ce qui se passe dans Hill House, se dit-elle, n'est pas forcément causé par Hill House. » Nous savons qu'Eleanor a déjà vécu une expérience de télékinésie. Alors qu'elle avait 12 ans, des pierres sont tombées du plafond, tambourinant follement sur le toit. Elle nie, jusqu'à l'hystérie, avoir eu quelque rapport que ce soit avec cet incident, insistant plutôt sur la gêne qu'il lui a occasionnée, l'attention indésirable, du moins le prétend-elle, dont elle a fait l'objet. Ces dénégations ont un étrange effet sur le lecteur, un effet qui ne fait que s'accentuer lorsqu'il constate que la majorité des phénomènes observés par la suite sont de nature télékinétique. « On ne m'a jamais vraiment raconté ce qui s'était passé », insiste Eleanor, alors même que les autres ont changé de sujet, oubliant pour l'instant cette histoire de pierre, et en fait, personne ne l'écoute. Mais au sein de son univers clos de narcissique, il lui semble que cet épisode lointain doit obséder tous ses interlocuteurs. Comme il l'obsède encore. Le climat extérieur doit s'aligner sur le climat intérieur. Ma mère a accusé les voisins. Ils étaient désagréables avec nous parce qu'elle ne les fréquentait pas et... Luke l'interrompt en ces termes. Je crois que nous demandons tous la même chose, des faits. Mais Eleanor ne peut accepter que les faits de sa propre vie. jusqu'à quel point Eleanor est-elle responsable de la tragédie qui s'ensuit. Examinons de nouveau le message que les chasseurs de fantômes découvrent sur le mur.
« Au secours, Eleanor ! Rentre à la maison, Eleanor !»
La maison hantée, imprégnée qu'elle est des ambiguïtés jumelles de la personnalité d'Eleanor et de celle de Hill House elle-même, est un roman qui se prête à plusieurs lectures, qui suggère une infinité de pistes et un nombre considérable de conclusions.
« Au secours, Eleanor !» par exemple.
Si c'est Eleanor qui est responsable de ce message, est-ce elle qui appelle ainsi à l'aide ? Si c'est la maison la responsable, implore-t-elle l'aide d'Eleanor ? Eleanor est-elle en train de créer le fantôme de sa propre mère ? Est-ce sa mère qui appelle à l'aide ? Ou bien Hill House a-t-elle sondé l'esprit d'Eleanor et rédigé un message destiné à exploiter son sentiment de culpabilité ? La dame de compagnie à laquelle Eleanor ressemble tant s'est pendue après que la maison lui eût été attribuée. Et peut-être est-ce la culpabilité qui explique son acte ? La maison essaye-t-elle la même tactique sur Eleanor ? Dans la maison d'à côté, c'est précisément ainsi que la demeure bâtie par Kim Doherty travaille l'esprit de ses occupants, en localisant leurs points faibles et en les exploitant. Peut-être que Hill House agit seule, peut-être qu'elle agit avec l'aide d'Eleanor, ou peut-être qu'Eleanor agit seule. Ce roman est des plus subtils, et c'est au lecteur qu'il appartient de tirer ses propres conclusions. Et le reste du message ? Rentre à la maison, Eleanor. Peut-être est-ce la voix de la mère d'Eleanor que nous entendons là, ou bien la voix du moi profond d'Eleanor, qui résiste à cette nouvelle indépendance, à cette tentative d'échapper à l'autoritarisme étouffant décrit par Park, qui la conduirait à une liberté enthousiasmante mais terrifiante d'un point de vue existentiel. C'est cette hypothèse qui me paraît la plus logique. Comme nous le dit Mary Cat dans le dernier roman de Jackson, nous avons toujours vécu au château, et Eleanor Vance a toujours vécu dans son univers clos et suffocant. Ce n'est pas Hill House qui la terrifie, et nous le sentons bien. Hill House forme elle aussi un univers clos et suffocant, cerné de murailles et de collines, protégé de la nuit par des portes bien closes. En fait, Eleanor se sent menacée par Montague, encore plus par Luke, et surtout par Théo. Entre le ridicule et l'abominable, vous êtes un peu embrouillé, dit Théo à Eleanor après que celle-ci a rechigné à l'idée de se vernir les ongles des pieds. C'est là une remarque bien anodine, mais elle définit parfaitement la conception de la vie qui est celle d'Eleanor. Les trois personnes avec lesquelles elle séjourne dans Hill House lui offrent la possibilité de mener une autre existence, une existence anti-autoritaire et anti-narcissique. Eleanor est à la fois attirée et révulsée par cette perspective. Après tout, n'oublions pas que c'est une femme de 32 ans qui se sent audacieuse quand il lui arrive d'acheter deux pantalons en même temps. Et il n'est guère audacieux de ma part de suggérer que ce message « Rentre à la maison, Eleanor » est un ordre qu'elle s'adresse à elle-même. Elle n'est autre que Narcisse, incapable de quitter son étang. Mais il existe une troisième hypothèse qui me semble presque trop horrible pour être envisagée. Et pourtant, c'est à cause d'elle que je considère ce roman comme un des meilleurs que le genre ait jamais produit. Ce message est peut-être tout simplement une invitation lancée par Hill House à Eleanor. Les voyages s'achèvent lorsque les amants se rencontrent, comme elle le dit elle-même. Et alors que sa fin approche, elle se souvient d'une ancienne chansonnette.
« Passez par la fenêtre, passez par la fenêtre. Passez par la fenêtre comme au temps passé. Embrassez votre amour, embrassez votre amour, embrassez votre amour comme au temps passé. »
Dans tous les cas, que la hantise trouve son origine dans Hill House ou dans Eleanor, les idées de Park et de Malin s'appliquent parfaitement. Soit Eleanor a réussi, grâce à son talent télékinétique, à transformer Hill House en un gigantesque miroir reflétant son propre subconscient, soit Hill House est un caméléon qui a réussi à la convaincre qu'elle avait enfin trouvé son foyer, sa tasse aux étoiles posée au creux des sombres collines. Je pense que Shirley Jackson souhaitait que le lecteur ait l'impression que c'était Hill House la responsable. Le premier paragraphe du livre évoque fortement le concept de mal extérieur. Une force primitive, similaire à celle qui habite la maison d'à côté, créée par Anne Rivers Siddons. Une force indépendante de l'humanité. La fin d'Eleanor nous donne l'impression d'avoir affaire à trois niveaux de vérité. Eleanor croit que la maison est hantée. Eleanor croit que la maison est son foyer, qu'elle attendait la venue de quelqu'un comme elle. Eleanor prend conscience d'avoir été manipulée par un monstrueux organisme, d'avoir été inconsciemment poussée à croire que c'était elle qui tirait les ficelles. Mais ce n'est qu'une illusion à base de miroir, comme disent les prestidigitateurs. Et cette pauvre Eleanor est en fin de compte tuée par le reflet déformé que lui montrent la brique, la pierre et le verre de Hill House.
« Je suis vraiment en train de faire ça ?»
se dit-elle en tournant le volant pour diriger la voiture en plein sur le grand arbre au détour de l'allée.
« Je suis vraiment en train de faire ça. Je fais ça toute seule. Enfin, c'est moi qui fais ça. Je suis vraiment en train de faire ça toute seule. »
Durant une interminable seconde, juste avant que la voiture s'écrase contre l'arbre, elle pensa en toute lucidité.
« Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi ne m'en empêche-t-il pas ?»«
Je fais ça toute seule, » pense Eleanor.
« Enfin, c'est moi qui fais ça. »
Mais il lui est impossible de penser autrement dans le contexte du nouveau gothique américain. Sa dernière pensée, une fraction de seconde avant sa mort, n'est pas pour Hill House, mais pour elle-même. Le roman s'achève par une reprise de son premier paragraphe, bouclant la boucle et fermant le circuit, et nous laissant aux prises avec une idée des plus inquiétantes. Si Hill House n'était pas hantée, elle l'est sûrement à présent. Jackson conclut en nous disant que ce qui déambule dans Hill House y erre en solitaire. La routine pour Eleanor Vance.